Europe 1,
18h-20h,
le grand journal du soir.
Wendy Bouchard.
Bonsoir à tous, bonsoir Marlène.
Bonsoir Wendy.
Et ravie de vous retrouver à l'écoute de ce monde qui change et que nous suivons encore jusqu'à 20h ce soir. À la une, un nouveau foyer de contamination en Dordogne après des obsèques, preuve que le virus est tapis dans l'ombre et que c'est la vigilance qui s'impose dans toutes les situations sociales. On va y revenir très largement ce soir. 18h30, on refait l'actu avec les maires et les préfets en première ligne pour appliquer sur le terrain les fameuses mesures de déconfinement. Port du masque, ouverture des plages notamment. Nous serons avec Sébastien Leroy, maire de Mandelieu, la Napoule. Il faut enfourcher le tigre. Voilà ce que propose Emmanuel Macron aux artistes. Mais Jacques Weber, notre invité, se voit-il animer des ateliers à l'école ou des colonies de vacances cet été pour réinventer son rôle d'acteur? Eh bien, sa réponse, il vous la réserve en direct tout à l'heure. 18h50, une chanson dans la tête.
Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur.
Pas de festival de Cannes cette année, mais des chansons de cinéma sur Europe 1 avec les anecdotes de Fabien Lecoeuvre. Le Covid-19 et son cataclysme économique, comment voir l'avenir? Pascal Lamy, ancien directeur de l'Organisation mondiale du commerce, nous rejoint. Et puis 19h40, dans Affaires à suivre, nous serons avec des restaurateurs de plus en plus nombreux à proposer de la vente à emporter pour sauver leur vocation et leurs établissements, bien sûr. Voici une partie de ce qui nous attend ensemble donc jusqu'à 20h ce soir. Merci de nous être fidèles. Voici pour commencer le journal de 18h. Avec Fabienne Lemoyle. Bonsoir Fabienne.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Vous êtes bien sur Europe 1, il est 18h.
C'est une légende du rock qui nous a quittés à 87 ans, Little Richard, un pionnier avec son tube planétaire Tutti Frutti dans les années 50. Hommage dès le début de ce journal.
Ce foyer de contamination en Dordogne, on y revient avec 127 personnes testées après un enterrement et 9 positives.
J-2 avant le déconfinement et ceux qui avaient quitté Paris commencent à rentrer pour reprendre le travail.
Ça fait bizarre, hein. Je ne m'en rendais pas compte du quotidien. Je me suis dit, je vais vraiment m'en rendre compte à Paris, de voir les quartiers vides, les magasins fermés, tout le monde avec des masques, que moi j'étais chez moi en campagne, donc je ne voyais pas trop tout ça.
Les sénateurs et les députés qui lèvent les derniers freins pour prolonger l'état d'urgence sanitaire et donner leur feu vert au déconfinement.
Et puis le masque qui sera un incontournable pour ce déconfinement, des villes s'organisent pour en distribuer comme à Lens.
Je suis venue chercher pour mes parents parce que moi c'est pas mon secteur. Ils ont leur masque, ils sont contents, enfin. Ils vont pouvoir faire leurs achats sans se soucier de quoi que ce soit.
Merci de votre écoute et de votre fidélité. Nous sommes ensemble sur Europe 1, soyez les bienvenus.
Europe 1, écoutez le monde changer.
C'était... C'était donc l'un des pionniers du rock'n'roll, Fabienne Lemoyle, une légende. Little Richard vient de mourir à l'âge de 87 ans.
Little Richard avec son tube planétaire Tutti Frutti dans les années 50, reconnaissable entre tous avec sa coiffure banane et sa fine moustache, Angèle Châtelier.
Tutti Frutti est son premier succès en 1955. Mais Little Richard, né en Géorgie, c'est avant tout le gospel. Il en rejoint des chœurs très jeunes. Repéré, il est engagé pour chanter dans des spectacles de drag queen. Mais à 19 ans, une rencontre d'abord est déterminante. Celle avec le chanteur Billy Wright qui croit en lui et l'emmène jusqu'à signer un premier contrat en maison de disques RCA. Chez eux, il sort Every Hour, Get Rich Quick. Mais quelques mois plus tard, son père, qu'il avait rejeté pour son homosexualité comme sa musique, est assassiné devant un club. Little Richard, la légende de la musique, naît surtout donc en 1955. Et pour les 3 années qui suivent, c'est là qu'on découvre Tutti Frutti, mais aussi Long Tall Sally ou Rip It Up. Little Richard décoiffe le rock'n'roll sur scène comme dans son look avec ses chemises extravagantes, colorées, sa moustache, sa banane dans les cheveux et puis par ses paroles aussi très sexuelles. Son tube Tutti Frutti d'ailleurs parlait initialement de sexe entre deux hommes. Mais en 1957, il arrête le rock pour se consacrer à Dieu et il n'accepte de chanter que des chants traditionnels gospel. Ce n'est qu'en 1964 qu'il revient véritablement au rock'n'roll avec son album Little Richard Is Back. Celui que l'on appelle aussi le père du rock aura influencé aussi bien Chuck Berry que David Bowie ou les Beatles.
Et nous reviendrons sur quelques anecdotes. Little Richard et le cinéma, Little Richard et Johnny Hallyday, Little Richard et Europe 1. Fabien Lecoeuvre fait le point avec nous à 18h50 sur cette antenne.
Il est 18h04, la suite du journal sur Europe 1, Fabienne Lemoyle, Wendy Bouchard.
Et à deux jours du début du déconfinement, Fabienne, l'apparition d'un foyer de contamination en Dordogne sonne comme un avertissement.
Oui, tout est parti d'un enterrement, Wendy, qui a eu lieu fin avril dans un village au sud de Périgueux, obsèques suivi d'une réunion de famille. Plus d'une centaine de personnes ont dû être testées depuis. 9 pour l'instant sont positives au Covid-19 et on connaît maintenant, Jean-Jacques Héry, la chronologie qui a permis de découvrir ce foyer.
Oui, première date à retenir, celle du 24 avril. Des obsèques ont lieu dans la commune d'Église-Neuve de Vers. Une partie seulement de la famille du défunt est là, en petit comité dans l'église. Et ensuite, d'autres membres se seraient joints à la réunion familiale. Quelques jours plus tard, un des proches de l'homme décédé se présente chez son médecin. Observant ses symptômes, celui-ci prescrit alors un test au Covid-19. Le résultat tombe le 30 avril, positif. Le lendemain, c'est au tour de 5 autres personnes du cercle familial d'être dépistées. Là aussi, le test est positif, tous ces malades sont isolés. L'agence régionale de santé, craignant alors la formation d'un cluster, lance la procédure de traçage des personnes ayant été en contact avec les malades. L'idée, c'est d'essayer de remonter la chaîne de contagion et de l'isoler. C'est ce qu'explique Michel Lafourcade, directeur général de l'ARS Nouvelle-Aquitaine.
Nous avons travaillé par cercle concentrique. Il s'est agi de dépister également les pompes funèbres, le personnel de l'hospitalisation à domicile. Et puis, auprès de l'entreprise de la première personne dépistée positivement.
Au total, 127 personnes ont ainsi été testées. On a les résultats pour 103 d'entre elles. Bilan, 9 cas positifs, sans aucune forme grave de la maladie. Et ce soir, l'ARS estime que la situation est maîtrisée et ne devrait pas avoir d'incidence sur la situation globale dans le département de la Dordogne.
Jean-Jacques Héry.
Foyer maîtrisé, mais vigilance de rigueur. On y revient à 18h15 avec mon invité, le professeur Raphaël Pitti. À J-2 de ce déconfinement, les sénateurs et les députés ont travaillé à marche forcée ce samedi sur le texte qui prévoit la prolongation de l'état d'urgence sanitaire.
Suivi des patients en responsabilité pénale, tous les freins ont été levés, Jean-Rémy Baudeau, pour donner l'ultime feu vert au déconfinement.
Oui, Fabienne, rappelons qu'il y avait plusieurs points délicats dans le texte proposé par le gouvernement pour prolonger l'état d'urgence sanitaire et permettre le déconfinement lundi. On a beaucoup parlé de l'article 6 de ce texte qui organise l'identification des personnes infectées et le suivi de leur entourage par les fameuses brigades des agents de la Sécu. Très nombreuses réticences dans l'opposition, mais aussi dans la majorité sur un possible fichage. Eh bien, sachez que le Parlement a restreint la conservation de toutes ces données à 3 mois. Cet après-midi, sénateurs et députés se sont mis d'accord sur la question de la responsabilité des dirigeants. Les maires ne pourront par exemple pas être tenus responsables d'éventuelles contaminations lors de l'ouverture des écoles. C'était l'un des sujets qui cristallisait les craintes de nombreux élus locaux. Il y a donc un feu vert du Parlement pour le déconfinement, avec dans toutes les têtes au Parlement comme au gouvernement d'ailleurs la crainte que la fin de cette vie sous cloche ne puisse provoquer une reprise de l'épidémie. On en parlait un instant, les exemples en Dordogne comme en Allemagne d'ailleurs posent de nombreuses questions. C'est pourquoi au-delà du cadre du juridique, un conseiller me le répétait à l'instant, ça n'est pas parce qu'on déconfine que le virus est parti.
Jean-Rémy Baudou.
Ouais, c'est ce texte, en tout cas, qui va permettre de valider définitivement le dispositif permettant de tracer les malades du Covid et leurs proches. C'est un dispositif essentiel, comme le redit Olivier Véran, pour casser, Fabienne, les chaînes de contamination en testant puis en isolant.
Et au cœur de ce dispositif, il y a les fameuses brigades qui sont susceptibles de vous appeler à partir de lundi si vous avez été en contact avec un malade. Alors comment ce dispositif chapeauté par l'assurance maladie va fonctionner, Jean-Sébastien Soldaini?
Eh bien, une fois qu'un malade est identifié par un médecin après un test positif, il reviendra aux équipes de l'assurance maladie, celles que le ministre de la Santé appelle des brigades, d'appeler toutes les personnes qui ont été en contact prolongé et rapproché avec ce malade. Votre téléphone pourra sonner dès lundi pour vous signaler que vous êtes potentiellement infecté. La suite est détaillée par Nicolas Revel, directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, et ça commencera par la nécessité de se soumettre à un test.
Vous n'aurez pas besoin d'aller voir un médecin pour avoir une prescription. Seul fait que vous ayez été entre guillemets enregistré et que vous appelle vous permettra d'aller dans n'importe quel laboratoire. On vous dira d'aller chercher des masques si vous n'en avez pas pour protéger votre entourage. Et là aussi, ce sera totalement pris en charge. Si vous avez besoin d'un arrêt de travail, eh bien, l'assurance maladie vous l'enverra directement sans que vous ayez là encore besoin d'aller voir un médecin. Et en fonction ensuite du résultat du test, on avise sur la suite de ce qui se passe.
Et puis, il y a cette question du secret médical posée par les médecins, eux qui vont devoir désigner les malades pour que l'enquête se poursuive. Pas de problème de ce côté-là, assurent les autorités, car le secret médical sera entièrement préservé, comme il l'est déjà lorsqu'un médecin déclare le cancer d'un patient à l'assurance maladie.
Jean-Sébastien Soldaini.
Lundi va marquer la reprise du travail. Ce 11 mai, ce sera pour beaucoup de salariés. Près de 900 000 personnes avec la réouverture de nombreux commerces, Fabienne.
Chiffre donné cette semaine par Bruno Le Maire. Du coup, certains qui avaient décidé de quitter les villes pour se confiner, par exemple, dans une maison de famille, commencent à prendre le chemin du retour. Mathieu Bock, vous vous êtes rendu Gare Montparnasse à Paris. Dans quel état d'esprit ceux qui avaient quitté la capitale font leur retour ?
Eh bien, ils sont plutôt fatalistes. Il fallait bien rentrer un jour, mais en quittant Paris pour se rendre à l'île de Ré il y a deux mois, Séverine, Tain, Allais et Mine Radieuse ne pensaient pas être accueillis à son retour par des policiers et ne pensaient pas voir ces ronds peints sur le quai afin de respecter la distanciation sociale.
Le train était quasiment vide. Néanmoins, ils ont quand même laissé les gens à côté. Donc c'est de nous-mêmes, on s'est déplacés dans le train pour pas être à côté. Et là, retour à Paris avec des ronds partout et la police... Mais les gens respectent pas du tout les ronds, voilà, clairement. Mais c'est vrai que quand on arrive et qu'on est bloqué à la sortie du train, je trouve ça un peu débile, sachant qu'on nous a déjà contrôlé à l'aller, qu'on a contrôlé notre attestation et qu'ils refont un contrôle ici. Je comprends pas le principe quand on est déjà monté dans le train, en fait.
Pauline traîne une grosse valise en se dirigeant vers les taxis. Cette vendeuse en boutique reprend le travail lundi. Après deux mois dans la campagne bretonne, l'arrivée à Paris est brutale.
Ça fait bizarre, hein. J'étais vraiment en pleine campagne, donc je m'en rendais pas compte du quotidien. Je me suis dit, je vais vraiment m'en rendre compte à Paris, de voir les quartiers vides, les magasins fermés et tout le monde avec des masques, que moi, j'étais chez moi en campagne, donc je voyais pas trop tout ça. Donc c'est un retour étrange à la réalité. C'est ça, ouais. C'est pas le retour au quotidien, donc on va s'adapter au fur et à mesure de ces semaines.
Mais Pauline rajoute qu'elle est tout de même impatiente de retrouver ses amis qui, eux, sont restés à Paris.
Mathieu Bock, Gare Montparnasse à Paris.
Et l'un des grands changements lundi, c'est que le masque va devenir l'accessoire indispensable au confinement, en plus de tous les gestes barrières au déconfinement, même s'il n'est pas obligatoire pour sortir.
Il le sera en revanche dans les transports et dans certains commerces. Alors, ce week-end, de nombreuses villes organisent des distributions, comme a pu le constater Maximilien Carlier à Lens, dans le Pas-de-Calais.
Bonjour madame, vous pouvez avancer.
Sous le préau d'une école, des barrières étables avec du gel hydroalcoolique, du ruban adhésif au sol, un sens de circulation et des agents municipaux pour orienter les habitants.
Donc ça sera tout droit madame.
Tout droit. Merci monsieur.
Gisèle, première sortie depuis deux mois, a ramené sa pochette avec tous les documents nécessaires.
La carte d'identité, le bon et un justificatif du loyer. Je dis j'ai très peur quand même. Pour ça, voilà, je suis venu chercher le masque.
Masque réutilisable, placé dans une enveloppe, avec les précautions d'usage.
Alors ne portez pas votre masque plus de 3 heures.
Et une fois récupéré, les avis sont partagés. Certains sont sceptiques, mais pour la grande majorité, c'est le soulagement.
On n'arrivait pas à en trouver, quoi. Mais voilà, on est tranquille. Bah moi, je commence le boulot lundi, donc je vais le mettre.
Je suis venue chercher pour mes parents, parce que moi, c'est pas mon secteur. Donc voilà, quoi, ils ont leur masque, ils sont contents, enfin. Ils vont pouvoir faire leurs achats sans se soucier de quoi que ce soit.
Je sais pas si c'est nécessaire, hein. Franchement. Si on doit choper le virus, on le chopera, avec ou sans masque.
Et en plus des masques à retirer, des kits vont être distribués aux commerçants pour préparer la réouverture des magasins. Lens, Maximilien Carlier, Europe 1.
Les masques, on en parlera de Lens à Mandelieu-la-Napoule avec notre invité, le maire de Mandelieu, près de Cannes à 18h30 sur Europe 1. C'était le journal de Fabienne Lemoyle qu'on retrouve demain pour Europe Midi. Merci Fabienne.
Avec plaisir Wendy.
Et bonsoir Lionel Rousseau.
Bonsoir Wendy.
Vous qui nous accueillez à partir de 20h sur Europe 1, Europe 1 Sport, quel est votre thème de discussion de la soirée, Lionel ?
Le championnat de football en Allemagne va reprendre la semaine prochaine. On débat évidemment avec nos experts et notamment avec l'international français Joshua Guilavogui qui joue à Wolfsburg. On évoquera aussi les conséquences de l'arrêt du championnat en France avec Valdemar Kita, le président du FC Nantes.
Merci beaucoup Lionel. À tout à l'heure, 20h sur Europe 1. Voici un point météo alors qu'il vient de tonner très fort sur Paris. Pour demain, dimanche, chère Valérie Darmon, eh bien, ça se corse encore. 5 départements du sud-ouest en alerte orange. Orage. Bonsoir Valérie.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Et oui, on est parti pour un petit moment là avec les orages et la chute des températures. Alors Gers, Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées sont en alerte orange-orage à partir de demain aux alentours de 14h. On a quelques orages qui se sont déjà déclenchés ce samedi après-midi dans une masse d'air chaude et humide, mais rien à voir avec la situation de demain après-midi. Alors comment ça va se passer ? Eh bien ce samedi soir, on a ces orages qui éclatent dans de nombreux endroits de France. Vous venez de parler de la région parisienne, effectivement c'est le cas depuis la Normandie. À partir de demain matin, on on a une nouvelle dégradation pluvio-orageuse qui se met en place par le sud-ouest. Les pluies modérées, parfois fortes, vont déborder des Pyrénées vers la plaine toulousaine jusque vers la vallée de la Garonne. Elles vont prendre ensuite un fort caractère orageux et les périodes de fortes précipitations vont s'enchaîner, donnant des cumuls exceptionnels jusqu'à lundi après-midi. Là où il va pleuvoir le plus, c'est du Piémont basque au bassin d'Arcachon, où il risque de tomber 1 à 2 mois de précipitations en moins de 36 heures.
Bon, on fait un petit point à 18h30 à vos côtés, Valérie Darmon, merci.
Absolument.
Et dans un instant, dans notre grand journal du soir, Wendy, notre dossier, le Covid-19.
Un virus qui ne demande qu'à se propager. Pour preuve, ce nouveau foyer épidémique dont on vous parlait à l'instant en Dordogne, après des obsèques, foyer maîtrisé mais qui pose encore beaucoup de questions. Et on vous éclaire avec notre invité juste après quelques petites secondes de pub.
18h15, la suite du grand journal du soir avec vous, Wendy Bouchard. Et nous revenons sur ce nouveau foyer épidémique apparu en Dordogne et dont le directeur de l'ARS Nouvelle-Aquitaine estime qu'il est maîtrisé.
Oui, et nous apprenons de l'expérience et de 2 mois de confinement et de lutte contre l'épidémie. Mais ce nouveau foyer est très éclairant sur la manière dont désormais chaque cas devra être diagnostiqué et traité, qui plus est à partir de lundi 11 mai, début de déconfinement. Bonsoir professeur Raphaël Pitti.
Bonsoir.
Merci de nous rejoindre sur l'antenne d'Europe 1, vous qui êtes anesthésiste réanimateur, qui avait rejoint le renfort sanitaire il y a quelques semaines dans le service de réanimation au CHU de Metz. Revenons d'abord sur ce foyer en Dordogne. Un homme contaminé le 30 avril après avoir assisté à des obsèques, qui présente des symptômes du Covid, qui consulte un médecin, lequel médecin va réagir très vite. Et là, on le voit, vraiment, les médecins vont être les référents pour ce suivi des malades et des cas contacts, chaîne essentielle dans cette lutte contre l'épidémie.
C'est évident, et on aurait dû déjà les utiliser dès le départ. Ils ont été un peu abandonnés lors du pic épidémique que nous avons connu, les médecins généralistes en particulier. Ils sont un élément essentiel puisqu'ils sont en contact direct avec l'ensemble de la population et en particulier de leur patientèle. Et donc, ils sont aujourd'hui un des éléments essentiels de la veille sanitaire que nous pouvons mettre en place au moment du déconfinement en particulier.
Sachant que l'enquête de ce médecin auprès de cet homme et de sa famille aura permis de remonter, c'est énorme, hein, 127 personnes susceptibles d'être infectées, ce qu'on appelle des cas contacts, des personnes dépistées qui pour certaines positives seront traitées et donc placées à l'isolement. Et là on est vraiment dans le triptyque, dans le protocole sanitaire tel qu'il va se répéter.
C'est ça, absolument. Je pense qu'il faut savoir, dès à présent, savoir vivre avec le Covid jusqu'à ce que nous ayons soit une thérapeutique efficace qui va nous permettre effectivement de faire en sorte que cette infection sera banalisée par le fait que nous avons un traitement efficace, soit nous avons une vaccination qui permettra, une vaccination qui sera pérenne, bien évidemment, qui nous permettra de supprimer le Covid lui-même. Mais il nous faut apprendre dès à présent à vivre avec le Covid. Personnellement, je pense qu'il n'y aura pas de pic comme nous avons connu maintenant. Et par contre, nous aurons des clusters, c'est-à-dire des endroits où va émerger un groupe d'individus avec un individu et puis un risque de contamination. Et c'est ce que nous allons voir apparaître. Et c'est ce que je disais, ça nous oblige donc en permanence à être vigilants, chacun pour soi et chacun pour tous en même temps.
Oui, sachant que l'épidémie n'est pas terminée, professeur Raphaël Pitti. Hein, 243 morts de plus en 24 heures en France. Il y a certes moins de pression sur les services de réanimation, mais on meurt toujours et en grand nombre.
Bien évidemment. Alors, on meurt bien évidemment et surtout dans les services de réanimation, bien sûr, parce que ce sont des patients qui sont là déjà depuis un certain temps. Je vois dans le service de réanimation où je suis, il y a des patients qui sont là depuis plus d'un mois. Bien évidemment, plus le temps dure, plus les complications qui sont les complications propres à la réanimation chez des personnes âgées qui ont une comorbidité importante, etc. Et donc, on aura encore un certain nombre de morts dans les services de réanimation, non pas à partir de cas arrivant de l'extérieur, mais à partir de cas qui sont déjà hospitalisés, soit ils décompensent dans les services Covid, soit ils meurent dans les services de réanimation. Et donc, pendant un certain temps, nous aurons encore des morts.
Ce qui est intéressant, permettez-moi ce terme, dans ce cas du nouveau foyer en Dordogne, c'est que jusqu'à présent, cette région, cette zone était plutôt épargnée par le Covid. Ce qui ne veut rien dire, Raphaël Pitti, et là on le répète, c'est pas le virus qui est mobile, ce sont les hommes et les femmes qui, hélas, le transmettent et le transportent.
Bien évidemment, c'est comme ça que se déplace l'épidémie. Nous sommes des vecteurs du Covid. Le Covid se sert de nous, bien sûr, pour se déplacer. Il a réussi en 18 jours à faire le tour de la Terre lorsqu'il est apparu en Chine, en sachant que maintenant, on se rend compte qu'il était déjà présent, peut-être vraisemblablement dès le mois de décembre, déjà en France, mais que nous avons cru qu'il s'agissait de grippe simplement très invalidante d'une certaine manière. Et que nous avons pris pour des grippes sans avoir à rechercher, puisque nous n'avions pas, l'attention n'était pas portée sur le Covid, bien évidemment. Mais il est fort possible que le Covid était déjà présent en Europe, en tous les cas, dans certains pays, et même en France, au mois de décembre.
Et dans ce cas de Dordogne, près de Périgueux, le préfet a clairement dit les choses aujourd'hui. C'est un cas très propre de relâchement. Et voilà ce qui met chacun d'entre nous, et vous les soignants en premier lieu, en éveil, en alerte à partir de lundi.
Absolument. Oui. Absolument. Et en responsabilité aussi, avec une très grosse part de responsabilité les uns par rapport aux autres. Et il nous faut apprendre à nous discipliner aussi fortement que savent le faire les Japonais, je dirais, ou les Coréens du Sud. Alors ça, c'est une autre culture, et c'est peut-être cette culture que nous devons dès à présent apprendre.
Oui, mais c'est important de le souligner, la responsabilité de chacun, puisque on le sait maintenant, dans ce cas de Dordogne, la cérémonie d'obsèques a respecté la limitation de l'assistance, il y avait 20 personnes, mais ensuite, ils ont été bien plus nombreux à se retrouver au funérarium, en réunion de famille, avec des membres de la famille dont on apprend qu'ils sont venus du Portugal et de Suisse. Et là, on sait bien, Raphaël Pitti, que malgré les contrôles qu'on mettra en place, il sera impossible de limiter le flux d'aller-venus, justement. Et c'est le civisme qui doit être de mise, en plus des gestes barrières.
Absolument. Absolument, chacun de nous est responsable, il est responsable de lui-même comme il est responsable des autres en même temps, et c'est dans cette discipline que nous avons à nous imposer chacun les autres que nous pourrons limiter bien évidemment le nombre de victimes de ce Covid. Mais il nous faut apprendre, c'est dans ce sens que je disais le terme de « il nous faut apprendre à vivre avec le Covid ». Il nous faut apprendre cela dans cette discipline que nous avons à assimiler et à nous approprier.
Oui, je ne sais pas si vous craignez, comme certains spécialistes que je recevais d'ailleurs la semaine passée sur Europe 1, que le débat sur les masques, que la discussion sur les masques occulte tous les gestes de mesures barrières sanitaires qui sont aujourd'hui essentiels et qu'on a tendance à oublier. Et pardon de cette petite parenthèse, mais y compris les membres de l'exécutif. On a vu avant-hier à Matignon se succéder 6 ministres sans que le pupitre ne soit désinfecté. Je ne sais pas comment vous réagissez aussi à ce relâchement à la tête de l'État.
Mais bien évidemment, l'exemple doit partir de haut. Il n'existe pas de poisson qui pourrisse par la queue, mais essentiellement par la tête. Et donc, il est nécessaire que tous les responsables commencent à montrer le bon exemple à travers leurs déplacements, à travers lorsqu'ils sont filmés en particulier, même dans leur vie privée, etc. C'est vraiment une nouvelle discipline. Et c'est véritablement ce que je disais tout à l'heure. Il nous faut apprendre à vivre avec le Covid. Apprendre, ça introduit cette notion de distanciation nécessaire et c'est terminé, on ne s'embrassera plus en public, on ne se serrera plus la main. C'est nécessaire à la fois d'avoir son gel hydroalcoolique sur soi, c'est essentiel en même temps de savoir se laver les mains si on n'a pas de gel, aussi souvent qu'il est nécessaire de le faire. C'est nécessaire aussi de savoir ne pas toucher les légumes quand on est dans un supermarché, comme je l'ai vu faire il y a pas très longtemps à propos d'œufs, où j'ai vu une dame ouvrir sa boîte d'œufs, prendre un œuf entre les mains, le remettre à l'intérieur, et ensuite reposer la boîte. Tout ça doit être terminé. Il appartient véritablement à ce qu'on ait une grande éducation de la population, si nous voulons éviter, bien entendu, toutes les victimes potentielles que cela peut entraîner.
C'est dur, mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'on vaincra l'épidémie, peut-être à terme, docteur Raphaël Pitti, le temps qu'un vaccin éventuellement ne nous en prémunisse. Mais cette distanciation sociale est exemplaire. Merci d'avoir réagi sur l'antenne d'Europe 1, professeur Raphaël Pitti.
C'est moi qui vous remercie me laisser témoigner.
Merci.
Le grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h avec Wendy Bouchard. Et avec le confinement, des métiers sont apparus comme plus essentiels encore à la lutte contre l'exclusion sociale. C'est le cas des auxiliaires de vie et des aides à domicile, Wendy.
Oui, des professions dont nous parlons ce soir et qui pourtant ont le sentiment d'avoir été les grandes oubliées de la crise. Bonsoir Thierry Daboville.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire général de l'ADMR, qui est le premier réseau associatif en France de services à la personne. Et si vous vous permettez, je voudrais commencer par un témoignage d'une femme que je recevais il y a un petit mois dans cette Europe Weekend. Gisèle Vissac, elle est aide à domicile, assistante de vie libérale dans Lyon. Et voici ce qu'elle nous disait il y a donc un mois.
Depuis le confinement et bien avant, on est complètement ignoré des dirigeants, jamais contactés. En dehors des familles qui sont effectivement anxieuses et aimantes, Rien. C'est-à-dire que je tire mes conseils d'une amie qui est infirmière sur Paris, qui elle est sur le terrain depuis très longtemps. Et fin février, elle m'a dit bien voilà, je pense qu'il va se présenter quelque chose de catastrophique. Donc les bons gestes à adopter seront ceux-ci. Mmh. Donc j'ai essayé de faire au mieux et j'ai décidé par moi-même, partir du 7 mars, de ne plus avoir de contact avec personne pour pouvoir intervenir éventuellement chez les gens qui vont avoir besoin de moi.
Ce système D, Thierry Daboville, ce sentiment d'abandon, alors que vous représentez tant d'hommes et de femmes qui sont aussi en première ligne, c'est le sentiment général qui domine après deux mois de confinement.
Oui, c'est vrai qu'il a fallu en permanence se battre hein, pour les auxiliaires de vie, pour les aides à domicile. Il a fallu se battre à la fois pour les reconnaître comme des salariés prioritaires.
Hein. Oui.
Ça a été le cas pour qu'ils puissent maintenir leurs enfants en classe ou en crèche. Ça a été ensuite le cas pour dans le cadre des autorisations de déplacement et puis enfin pour les masques. Pour les masques où il a fallu en tout cas à la DMR ce que nous avons fait, il a fallu contacter les entreprises locales pour essayer d'avoir des masques pour compléter les dotations d'État qui étaient insuffisants. On a été même jusqu'à acheter 1 300 000 masques pour compléter les dotations qui étaient faites dans nos associations locales sur le terrain.
Donc ces facilités pour ces missions que vous représentez, elles ont été ouvertes par étapes, si j'ose dire, et trop lentement de votre point de vue aujourd'hui, même si vous ne faites procès à quiconque, on sait bien que c'est une situation inédite, mais vous auriez aimé un soutien plus important que celui que vous n'avez obtenu ?
Oui, parce que, si vous voulez, on s'est beaucoup focalisé, et à juste titre, hein, bien sûr, sur le secteur hospitalier, sur les établissements, et c'est important, bien évidemment, sont des acteurs essentiels dans cette lutte. Mais le secteur de l'aide à domicile, c'est un secteur un peu invisible, et pourtant, qui intervient auprès de 5 millions de personnes âgées et personnes vivant avec un handicap.
Très fragile.
Seules chez elles. Oui. C'est énorme. Et donc ce sont des centaines de milliers de salariés qui interviennent au domicile de ces personnes qui sont des personnes toujours très très fragiles. Et si elles n'avaient pas été là, je le dis, la situation aurait été vraiment catastrophique.
Mais alors, justement, compte tenu du confinement, de la pauvreté en masque ou en surblouse, est-ce que les missions ont pu être conservées, en tout cas pour les personnes très très isolées, voire abandonnées, pour lesquelles ces aides à domicile sont évidemment essentielles, Thierry Daboville?
Oui, tout à fait. Si vous voulez, toutes les missions ont pu être maintenues.
Oui.
C'est vrai que nous sommes recentrés sur ce qu'on appelle les actes essentiels, c'est-à-dire le lever, les toilettes, les repas, le coucher. Et puis aussi, nous avons continué des interventions auprès de personnes qui étaient très isolées, où il n'y avait pas de membres de la famille ou d'aidants qui pouvaient venir à domicile. Donc, toutes les interventions ont pu être faites, et c'est tout à l'honneur de toutes ces aides à domicile, de toutes ces auxiliaires de vie.
Qui ont voulu garder ce contact, hein, cette proximité. Cela s'est fait aussi, et Gisèle Vissac nous le disait, par exemple, par téléphone. Mais au moins, le lien a pu être conservé, ne serait-ce que par oral, avec certaines familles, certaines personnes.
Oui, pour certaines personnes où il n'y avait pas d'acte essentiel, donc le lien a été maintenu, alors à la fois par les salariés, mais aussi... dans un réseau comme le nôtre, par de très nombreux bénévoles, puisque nous avons à peu près 85 000 bénévoles.
Oui.
Et donc, ce lien a été maintenu à tous les moments de cette crise. On a proposé à des personnes qui étaient isolées d'aller faire des courses, de façon, parce qu'elles ne pouvaient pas se déplacer, de façon à rompre cet isolement qui est souvent terrible.
On parle de ces assistants de vie, de ces aides à domicile. Est-ce que ce que vous avez vécu, ce que nous avons vécu ensemble, doit éclairer pour vous fondamentalement le débat qui va avoir ensuite lieu sur la loi Grand Âge, sur l'autonomie, pour mieux sécuriser demain ces métiers que vous représentez, Thierry Daboville?
Alors oui, cette loi Grand Âge et autonomie, Dieu sait que nous la réclamons depuis plusieurs années. Mmh. Et je crois que aujourd'hui, dans la situation actuelle, on voit que la place des services à la personne, des aides à domicile, et que c'est un maillon essentiel des politiques publiques, hein, du soin.
Il y a un travail très important à faire sur la question de l'attractivité de ces métiers, qui allie à la fois professionnalisme, mais aussi une dimension humaine forte. Bien quand sûr. On fait ce métier-là, on le fait pas par hasard, si vous voulez. C'est que il y a une humanité. Ces salariés portent une humanité très forte, et je dirais il faut qu'il y ait vraiment une revalorisation, parce que ça passe aussi par ça, une revalorisation de leur salaire, qui est souvent un salaire très bas. Hein. En moyenne, c'est à peu près 900 euros net par mois. Donc vous voyez qu'il y a un vrai travail de reconnaissance de ces métiers.
Et de valorisation de ces métiers, bien sûr.
Voilà.
Que vous représentez ce soir, Thierry Daboville, secrétaire général de l'aide à domicile en milieu rural, un réseau associatif qui intervient auprès de millions de bénéficiaires à travers la France. Merci de votre témoignage et nous suivrons ces débats plus tard sur la loi Grand Âge et sur l'autonomie.
Merci
à vous.
Le grand journal du soir, la suite sur Europe 1 avec à présent le rappel des titres, Wendy Bouchard.
C'est Sophie Tussaud qui nous rejoint pour cette actualité. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Députés, sénateurs trouvent un accord sur le projet de loi qui prolonge l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet. Le texte doit maintenant être validé par le Parlement. Le vote vaudra pour adoption définitive. Attention au relâchement. À deux jours du déconfinement, au moins 9 cas de coronavirus ont été détectés en Dordogne à la suite d'une réunion de famille pour des obsèques, un département pourtant en zone verte. Le couvre-feu nocturne imposé à Mulhouse s'arrêtera demain soir. Il était en vigueur depuis le mois de mars. Mulhouse, où l'hôpital militaire de campagne avait été dressé pour faire face à l'afflux de malades. Aujourd'hui, cette annexe de l'hôpital civil n'a plus de patients. Un guide du télétravail publié aujourd'hui sur le site du ministère du Travail. Le gouvernement l'a rappelé. Lorsque ce mode de travail est possible, il doit pour le moment rester la règle. 5 millions de salariés sont actuellement en télétravail. Aujourd'hui, le 9 mai, c'est la journée de l'Europe. À cette occasion, dans une vidéo postée sur Twitter, les 27 ont prôné la solidarité pour sortir plus fort de la crise. Il était un génie du rock'n'roll et avait permis l'émergence de cette musique dans les années 50, comme l'avait fait Fat Domino ou Chuck Berry. Little Richard s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 87 ans. Ses tubes comme Tutti Frutti ou Long Tall Sally continueront de faire danser encore longtemps.
Et on l'écoutera dans un instant avec Fabien Lecoeuvre qui lui rend aussi hommage sur Europe 1. Tout à l'heure, Sophie Tussaud.
Tout à l'heure.
Et beaucoup d'agitation demain dans le sud-ouest, ça a commencé aujourd'hui Valérie Darmon, avec des orages attendus qui seront assez violents et de grosses pluies également au sud.
Mais oui, de toute façon, on est mouillé où que l'on se trouve demain. Alors c'est vrai que l'après-midi se déroulera sous un temps très très perturbé sur le sud-ouest et en particulier au sud de la Garonne. Les pluies y seront passagèrement fortes et durables avant de tourner à l'orage. Gers, Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Côte-Pyrénées sont en alerte orange-orage à partir de 14h. Des précipitations assez marquées traverseront aussi le Languedoc-Roussillon en direction du sud de Rhône-Alpes, de PACA et de la Corse. L'orage grondera surtout en fin de journée sur la côte d'Azur et l'île de Beauté. Le vent d'est à sud-est va devenir assez fort sur le pourtour méditerranéen, jusqu'au sud du massif central et dans le domaine de l'OTAN. Et au nord, ce sera pluvieux, un petit peu moins orageux. Et on a quand même un temps un petit peu plus calme sur les côtes de la Manche en toute fin de journée. Côté température, 9 à 15 degrés le matin et l'après-midi, ben, elles amorcent une baisse forcément dans ce contexte avec 18 à 23 en général, 23 à 25 entre le nord de l'Auvergne, Rhône-Alpes, la Lorraine et l'Alsace, et elles perdront par endroits jusqu'à 10 degrés.
Merci Valérie. À tout à l'heure, 19h.
À tout à l'heure.
18h-20h, vous écoutez le Grand Journal du Soir sur Europe 1 avec nos interviews pour mieux comprendre le monde qui change.
Et des élus locaux qui investissent une nouvelle responsabilité au cœur de cette crise. Bonsoir Sébastien Leroy.
Bonsoir.
Vous êtes maire de Mandelieu-la-Napoule dans les Alpes-Maritimes et vous voici en première ligne pour adapter vous aussi au mieux sur le terrain le protocole sanitaire qui doit empêcher au virus de circuler. Tout d'abord, votre voisin Christian Estrosi impose à Nice le port du masque dans tout l'espace public. Est-ce une mesure que vous avez choisie aussi pour votre commune de Mandelieu, Sébastien Leroy ?
Bah écoutez, tout à fait. Nous, on a pris l'arrêté il y a une semaine. Donc c'est quelque chose que je tenais à faire depuis le début avril, je voulais même le faire avant. La difficulté étant qu'on n'avait pas d'approvisionnement suffisant en masques et qu'il fallait qu'on les distribue à la population avant de pouvoir le mettre en vigueur. Donc je pense que c'est une très bonne chose.
Ça veut dire que tous les masques ont été distribués à vos habitants à ce jour ?
Eh bien écoutez, on a déjà distribué plus de 250 000 masques pour 25 000 habitants. Donc là, on a fait les enfants, on a fait tous les adultes et on va refaire cette semaine une nouvelle distribution de 100 à 150 000 masques pour que chacun puisse en avoir plusieurs. Échanger très aisément afin justement de pouvoir le porter au maximum et surtout dans l'espace public puisque c'est là par définition et ce que là on a comme nouvelle actuellement notamment de l'Allemagne nous rappelle à quel point il faut être prudent, c'est pas la fin, il faut qu'on mette tous les moyens de notre côté, le masque est un moyen de protection supplémentaire qu'il ne faut pas négliger, il est très important.
Comment allez-vous accompagner la population pour ce port du masque? Pédagogie, répression et dans quel ordre et à quel niveau Sébastien Leroy?
Non, mais écoutez, la volonté, c'est vraiment de protéger, c'est pas de faire de la répression, surtout que il y a une idée commune qui est très répandue, mais qui est fausse, c'est-à-dire que les villes ne font pas de répression pour gagner de l'argent, puisque l'argent des amendes va à l'État, et l'État ne le rend pas aux communes. Mmh. Donc en fait, si vous voulez, l'idée, c'est vraiment la protection. Le principe que nous, on a adopté, qui me semblait le plus juste, c'est que comme il y a beaucoup de personnes aussi qui viennent d'autres villes, qui peuvent ne pas avoir de masque, eh bien, les forces de police, quand elles contrôlent des citoyens, elle lui offre gratuitement un masque, s'il n'en a pas, et elle l'invite à le porter. Et c'est uniquement si la personne, alors qu'il a un masque gratuit à sa disposition qu'on vient de lui remettre et qu'il refuse de le porter, qu'il peut être verbalisé. Pourquoi ? Parce que c'est une protection collective. Si vous ne portez pas de masque, vous mettez en danger les autres. C'est-à-dire que vous êtes protégé parce que les autres ont un masque, et en portant un masque, vous protégez les autres.
Ça veut dire, Sébastien Leroy, que vous avez le droit aujourd'hui d'imposer à la population le port du masque. Je fais référence à cet arrêté du Conseil d'État qui avait, à cette décision du Conseil d'État qui avait annulé l'arrêté du maire de Sceaux dans les Hauts-de-Seine qui voulait imposer l'obligation du masque pendant le confinement. Aujourd'hui, vous êtes dans la légalité?
Oui, tout à fait. Bah, écoutez, nous, l'arrêté a été signé il y a 2 semaines. Il est entré en vigueur le lundi matin, donc et depuis il est en fonction, il n'y a pas de problème. En fait, la jurisprudence du Conseil d'État, il faut bien comprendre que le Conseil d'État a pris une décision dans le cadre d'une procédure. Aujourd'hui, nous l'arrêté est en vigueur, il n'y a pas de procédure en cours à son encontre, donc il est parfaitement applicable depuis le 27 avril.
C'est la pluie qu'on entend tomber au-dessus de Mandelieu, c'est ça, Sébastien Leroy, on vous entend très mal. Je ne sais pas si vous avez prévu de rouvrir également vos plages, et pour quelles raisons, parce que ça c'est une décision que vous pouvez prendre en concertation avec le préfet, est-ce que cela avance?
Alors pour les plages, aujourd'hui la décision c'est qu'on est plutôt favorable à leur réouverture, donc on doit se concerter avec la préfecture pour trouver un système qui fonctionne. L'idée étant d'avoir un système qui soit réaliste, c'est-à-dire qu'il suffit pas de faire un cahier des charges complètement théorique, où on dirait, voilà, bah vous allez vous baigner, mais vous pouvez pas rester sur le sable pour sécher, et au moins comme ça on respecte virtuellement le protocole sanitaire. Mmh. Il faut trouver un juste équilibre, parce qu'il ne faut pas encore là aller trop vite. Oui, c'est comme pour les masques, il faut pas négliger le port du masque, il faut penser que tout s'arrête demain soir et que lundi c'est le déconfinement total. On va devoir encore composer avec le virus, et donc il faut prendre toutes les mesures, y compris quand elles sont frustrantes, hein, parce que vous savez que sur la Côte d'Azur, l'accès à la plage est un des plus grands avantages des citoyens. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on y aille doucement pour ne pas se lancer dans une course qui serait une course folle.
Bah, j'imagine que l'actualité en Dordogne vous rend encore plus vigilant à l'heure où nous parlons, Sébastien Leroy. On vient de l'évoquer avec un professeur réanimateur. Êtes-vous de ceux qui demandent aussi, par exemple, au gouvernement une dérogation à la règle nationale pour, dans votre zone verte, ouvrir les restaurants, les cafés, voire vos lieux culturels?
Je pense que il faut que les restaurants puissent ouvrir le plus tôt possible, mais là encore, il faudra le faire quand on pense que on pourra l'assumer de manière responsable. C'est-à-dire que là, je pense qu'il y a une date qui sera fixée au début du mois de juin. En l'état des choses, ça me semble aujourd'hui raisonnable. De toute façon, même les restaurants ont besoin d'un temps de redémarrage. Ils ne pourront pas redémarrer du jour au lendemain. Déjà qu'on les a fermés avec un préavis de 4 heures, ce qui était d'une brutalité hors du commun. Mmh. Il faudra qu'on prépare cette décision. Alors, il est certain que plus le retour à la normale sera rapide, mieux ce sera. Maintenant, c'est pas parce que le département est en zone verte qu'on peut se dire que voilà, on est vert et on peut tout faire. Et ce que vous disiez, l'actualité en Dordogne, mais aussi ce qui se passe en Allemagne. L'Allemagne est beaucoup mieux équipée que nous au niveau logistique, a eu beaucoup moins de cas, et aujourd'hui, on s'aperçoit que dans certains landers, il y a des reprises du virus alors que Absolument. Le déconfinement n'est que partiel.
Oui.
Donc il faut intégrer qu'en France, on est moins bien équipé, moins bien organisé et que potentiellement, ça peut être plus important en termes de reprise. Donc il faut y aller posément. Il faut surtout pas se précipiter. Je pense que c'était une des grandes erreurs de ce déconfinement programmé pour le 11 mai, c'est que rien n'était prêt. et qu'on a tout fait dans l'urgence, y compris les écoles, ce qui a eu un effet dramatique au niveau de la confiance des citoyens, avec une cacophonie de communication tout à fait sidérante, et qui s'est traduit au final par transmettre la responsabilité des enfants aux parents. C'est-à-dire qu'on a demandé aux parents de faire un choix totalement brutal.
Sur la base du volontariat, oui.
Voilà, mais quand vous faites ça, vous détruisez la confiance qu'on peut avoir dans le système public. Parce qu'à partir du moment où vous ouvrez les écoles, c'est que vous êtes sûr de pouvoir les ouvrir.
Et moralité, si elles ouvrent chez écoles, vous, à Mandelieu-la-Napoule, on ne sait pas si
elles ouvrent, mais en fait, si vous voulez, nous, elles ouvrent, mais j'ai appelé tous les parents qui le pouvaient, si c'était encore possible de garder les enfants à la maison. Parce que les conditions d'ouverture ne pourront fonctionner que s'il y a très peu d'enfants en classe. Tout simplement parce que vu ce qu'on a été encore inventé comme système, si on dépasse 40% d'effectifs, c'est plus viable. C'est-à-dire qu'on va devoir faire des demi-classes, on va devoir faire des temps partagés. Et si c'est pour que dans deux semaines, on se retrouve avec des enfants qui auront cours une demi-journée tous les trois jours parce qu'il faudra faire passer les autres, ça sera totalement ridicule et incompréhensible pour les familles.
On l'entend donc, en tout cas. Hein. Précaution et vigilance pour vous, chez vous également, à Mandelieu-la-Napoule, Sébastien Leroy. Voilà, merci pour ces réponses précises à ces exemples que nous avons partagés ensemble sur Europe 1.
Il est 18h39, Wendy Bouchard. Dans un instant, on va rejoindre un comédien.
Oui, chez lui en duplex, Jacques Weber, qui partage un poème de son choix avec les auditeurs d'Europe 1 et qui nous dira comment il appréhende, lui, la mission de l'artiste dans ce nouveau monde qui s'esquisse. À tout de suite.
20h sur Europe 1, vous écoutez Wendy Bouchard pour le Grand Journal du Soir. Et ce samedi, une fois de plus, vous donnez la parole aux artistes, Wendy.
Absolument, Marlène, et pas seulement parce que le président Macron leur a demandé, je cite, d'enfourcher le tigre, de réinventer leur rôle et leur rapport aux autres, parce qu'ils n'ont pas cessé de le faire par l'intermédiaire des réseaux sociaux, avec des concerts confinés, des partages de textes, comme sur notre antenne aussi depuis deux mois. Après Nicolas Briançon, Lou Doyon, Plantu ou Patrick Bruel, je suis ravie ce soir d'accueillir Jacques Weber. Bonsoir.
Bonsoir.
Nous sommes, Jacques Weber, à deux jours du déconfinement. D'abord, qu'est-ce que cela va changer pour l'artiste et pour le citoyen, Jacques Weber ?
Bah, écoutez, moi je fais partie, je suis septuagénaire, je touche une retraite, j'ai été un des grands privilégiés de tout ce drame pour beaucoup d'autres. Mais n'empêche que la première chose qui me vient tout bêtement, c'est que je vais pouvoir serrer des mains, je l'espère, quoique, et me retrouver dans la rue et pouvoir parler avec plusieurs personnes en même temps et non pas être à... Enfin, c'est ça que je ressens. Le citoyen, il faut pas cesser de se battre, non pas pour des terrains spécifiques tels que l'économie d'un côté, le social de l'autre, oui, la pandémie de l'autre, mais il faut ne pas oublier que ceux dont on dit qu'ils sont les premiers de cordée, on les a conspués, on les a méprisés du temps des gilets jaunes. Il y avait une grande majorité de la population qui n'aimait pas du tout ce mouvement. Le gouvernement les a totalement pas entendu. Ce qu'il faut vraiment, je voudrais être optimiste. Mon problème, c'est que tout me porte à croire qu'il y aura pas un monde nouveau, parce qu'on voit déjà des horribles réflexes de gens qui abusent de certains patronats qui abusent du chômage partiel. On voit la timidité extraordinaire des grandes fortunes dans toute cette histoire. On sent que certains proposent des espèces d'horaires abracadabrantesques pour des gens qui ont déjà une difficulté folle à vivre, à penser, donc à vivre, à être libre. Donc tout ça. Je suis entre la volonté de l'optimisme et de l'utopie, et puis un pessimisme flagrant, oui, c'est vrai.
Ce qu'on va partager d'ailleurs dans un instant avec la lecture du poème que vous avez choisi pour nos auditeurs. Vous, Jacques Weber, qui auriez dû être sur la scène de l'atelier ces dernières semaines avec des farces de Tchekhov. La pièce est repoussée évidemment en septembre pour l'instant, mais vous n'avez pas chômé parce que vous avez beaucoup travaillé sur un rôle que vous avez joué près de 500 fois et qui vous a durablement marqué, Cyrano, qui a été en quelque sorte votre compagnon de confinement, expliquez-nous.
Oui, enfin non, Dieu merci, c'était pas le seul, non, c'était vraiment, c'était un pis-aller, c'était presque, Rostand ne m'en voudra pas dire que c'était un amuse-gueule, oui. C'est-à-dire que me trouvant désemparé la veille d'une première, je me suis dit, il faut à tout prix que je fasse quelque chose, et je croyais qu'on serait rouvert en juin. Donc l'idée m'est venue que la seule chose qui était à peu près prête et autour duquel je pouvais correctement parler, sans trop réfléchir et foncer, c'était adapté Cyrano, et qui plus est parce que c'est un personnage qui fédère tout le monde, que tout le monde connaît et qui évoque à beaucoup de gens énormément de sentiments et de réflexions. Donc voilà. Non, Dieu merci, il n'a pas été le seul. Mais c'est en effet ce que je me suis amusé à faire, ce que je n'avais jamais fait. C'était des petites pastilles comme pour entretenir une conversation autour d'un rôle, mais d'une autre façon qu'une façon analytique ou avec des souvenirs de vieil acteur qui parle de son triomphe. j'ai voulu simplement peut-être essayer de toucher les gens avec ce que peut être le travail d'un acteur autour d'un texte. On se rend très vite compte que on dépasse très largement le cercle du rôle lui-même et de la pièce elle-même, et qu'on touche l'universel, quoi, bien sûr.
Et vous avez appris à cultiver ces conversations via les réseaux sociaux. On parle de Facebook, mais aussi de YouTube et d'Instagram.
Alors, je vais vous dire,
des facilitateurs de liens.
Je découvrais tout ça puisque je suis quelqu'un. Je demande à ma femme d'appuyer sur les boutons de l'ordinateur. On m'aide 3 fois pour faire marcher mon téléphone. Enfin, je suis vraiment un handicapé. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un pis-aller. Mais c'est un pis-aller qui me semble comme tout maintenant. Tout est une. Il faut se débrouiller. On n'est non pas en état de guerre, parce que je trouve ce mot effrayant. Et puis, j'ai pas envie d'en fourcher un tigre. Mais tout ça, qu'est-ce que ça veut dire?
Enfin, on va y revenir.
C'est un ridicule total. Mais bon. N'en parlons pas, mais je veux dire que ce qui est vraiment important, c'est mon rôle peut-être, et le rôle de tous les acteurs, de tous les gens du spectacle, c'est d'entretenir la pensée, la réflexion, ne pas chercher à donner des solutions, mais continuer à poser des questions. Et le théâtre a toujours, vous savez que le théâtre a été le lieu interdit, l'un des premiers dans la Révolution, parce qu'on avait peur d'une résurgence monarchiste. Ça en dit beaucoup. C'est un espace de liberté, d'indépendance. Là, je parle du théâtre, mais je pourrais parler aussi de la création cinématographique, des variétés, de la musique, de tout ça. Donc il est très important que tout ça reprenne. Comment ? Je n'ai aucune compétence pour en parler. Je ne suis pas médecin, je n'ai pas de remède miracle. J'ai trop peur de dire des conneries. Mais je pense aussi que nous sommes majeurs. J'allais dire, et vaccinés, ça aurait été de mauvais goût, mais majeurs et responsables, et qu'on peut peut-être retrouver des solutions. On va en trouver pour les répétitions, puisqu'elles ont été autorisées, et qu'on va trouver très vite des solutions pour assurer coûte que coûte le fait de la représentation. Quoi.
Sachant que vous avez raison, il est tellement difficile, et c'est ce que disait Isabelle Adjani dans une tribune sur France Inter cette semaine, la culture est incompatible avec la distanciation sociale. Alors comment on fait? Est-ce qu'on joue avec les captations, si on est un peu rétif justement à ces nouvelles technologies? Comment on imagine le théâtre en mettant plus de distance avec les autres?
C'est très compliqué, parce que l'un des premiers charmes du théâtre, c'est d'être tout seul, tous ensemble. Mmh. Et tous ensemble, ça admet, par exemple, les Bouffes du Nord, c'est un charme fou, parce qu'il y a presque une promiscuité, on se touche presque. Oui. C'est extrêmement important. Mais quand on peut pas avoir ça, eh ben faut peut-être inventer. Et je ne sais pas ce qu'il faut inventer. J'essaie d'y réfléchir parfois, mais j'ai envie de retrouver mes amis, justement, pour pouvoir en parler.
Mais bien sûr, mais est-ce que vous voyez, Jacques Weber, est-ce que vous voyez animer des ateliers à l'école ou des colonies de vacances, comme le suggère Emmanuel Macron à certains artistes?
Mais vous savez, j'ai pas attendu moi j'ai là dernière là il y a très peu de temps, j'ai fait des émigrations pour des villages d'émigrés, et ça m'est très souvent arrivé quand j'étais directeur de théâtre d'aller animer des choses à l'école et tout ça. Mais ça, c'est bon, bah bien sûr, mais on l'a déjà tous fait, on peut tous le faire. Mais enfin, c'est de parler de ça comme d'une chose, un événement, c'est un petit peu triste, c'est même très triste. Non, je crois que il faut qu'on sache qu'on n'y connaît rien en médecine, que la médecine elle-même, et c'est pas de sa faute, la pauvre, en effet, elle se contredit, mais il ne faut pas lui en vouloir. En effet, elle cherche désespérément, et il faut suivre. Nous sommes totalement incompétents, mais en même temps, nous connaissons très bien notre terrain, et il faut qu'on trouve. Le théâtre s'est toujours adapté aux circonstances, après tout.
C'est vrai.
Et c'est vrai que c'est assez incompatible. Je n'aime pas du tout le terme distanciation sociale. Ça en dit très long, je trouve.
Il faudrait parler de distanciation physique, d'ailleurs.
Bah oui, voilà, déjà pour commencer. Mais ceci étant dit, la distanciation sociale, elle existe de plus en plus, et ça, le gouvernement en est énormément responsable.
Alors, Jacques Weber, je voudrais qu'on termine pour réenchanter un petit peu nos auditeurs ce soir. Oui, avec ce poème que vous avez choisi, qui vous a été inspiré par les circonstances, racontez-nous.
Qui est un texte en deux mots extrêmement court, mais qui est tiré d'un des plus grands philosophes et poètes de notre début de XXe siècle, qui est né dans le fin XIXe, qui était Fernando Pessoa. Et je vous cite ce très court texte, mais que je trouve très très évocateur à l'heure actuelle. De tout, il resta trois choses. La certitude que tout était en train de commencer, la certitude qu'il fallait continuer, la certitude que cela serait interrompu avant que d'être terminé. Faire de l'interruption un nouveau chemin, faire de la chute un pas de danse, faire de la peur un escalier, du rêve un pont, de la recherche une rencontre. Fernando Pessoa. Je trouve que ce texte est très condensé et absolument extraordinaire. Et puis j'ai trouvé une dernière phrase de lui que je trouve extraordinaire. De même que nous lavons notre corps, nous devrions laver notre destin, changer de vie comme nous changeons de linge. Et ben voilà ce que j'ai envie
c'est
de vous dire à tous.
De circonstance. Ben merci beaucoup Jacques Weber pour ce partage sur Europe 1. Merci infiniment.
Merci
et on a hâte
écouté.
De vous retrouver aussi dans des lieux de culture.
Ben voilà, oui, puis il faudra vous venir.
Bon, on vous serrera peut-être pas à la main, ou alors avec du gel hydroalcoolique derrière, mais on vous promet d'être en communion avec vous.
On fera des bisous de loin, voilà.
Voilà. Merci infiniment, Jacques Weber. Merci beaucoup.
Merci.
À très bientôt.
Au revoir.
Merci,
au revoir.
Avant le journal de 19h, c'est une chanson dans la tête, Wendy.
Little Richards sur Europe 1. Il nous en reparle, Fabien Lecoeuvre, avec un hommage ce soir, qui nous raconte aussi les grandes chansons de cinéma. À tout de suite.
À 52, vous écoutez Wendy Bouchard. Place maintenant à la musique avec notre rendez-vous, une chanson dans la tête, au cœur de ce grand journal du soir.
Avec Fabien Lecoeuvre, notre spécialiste de la chanson, qui souhaitait d'abord rendre hommage évidemment à un pionnier du rock qui vient de disparaître, Little Richard. Tutti Frutti, entre autres. Bonsoir Fabien Lecoeuvre.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Et un artiste qui en a inspiré des artistes.
Complètement Wendy, puisqu'il a été un des pionniers, comme l'a dit tout à l'heure Sophie Cusseau, et puis surtout c'était l'explosif Little Richard. Moi j'ai eu l'occasion de le rencontrer le 7 juin 2005, c'était un mardi, je me souviens, à l'issue de son concert, son dernier concert qu'il a fait à l'Olympia en France.
Oui.
Et c'est une légende absolue. Et à l'issue de ce concert, on a parlé beaucoup, notamment de son enfance, parce qu'il avait quitté sa famille, une famille. Il était le milieu d'une fratrie de 12 enfants. Et puis à l'âge de 15 ans, on l'expulse de sa famille parce que sa famille n'admet pas son homosexualité, parce qu'il faut le rappeler, on est en 1947 et c'était très compliqué à cette époque-là. Donc il s'en va suivre son amoureux, un colporteur d'huile de serpent qui avait des vocations de guérir beaucoup de gens à l'époque. Et pour survivre, il chante. Et à partir de 1951, il enregistre donc un premier disque. Mais surtout, ce qu'il faut rappeler, c'est encore plus qu'Elvis Presley, Little Richard, on va dire, personnifie le sentiment de libération ressenti par les adolescents des années 50, d'abord, puis un peu celui aussi des années 60. Et sur scène, moi je l'ai vu sur scène, bien que ce soit tard dans sa carrière, mais sur scène, il criait, il hurlait, et en fait, le cri, vous savez, comme on entend dans Tutti Frutti, c'est un cri que lui qualifiait de satanique. C'était une manière aussi de prolonger son histoire et sa manière de parler à Dieu. Alors, il triomphe partout. Tous les grands chanteurs de l'époque, d'Elvis Presley à Jerry Lee Lewis, à Gene Vincent, Buddy Holly, Eddie Cochran, Prince, tous ont repris, évidemment,
Little Richard.
Mais surtout en France, c'est Johnny Hallyday, Michel Polnareff et Eddie Mitchell qui a repris Little Richard, bien sûr.
Et c'est cette chanson que vous vouliez partager ce soir, Fabien. On l'écoute, ce trio.
Oui. Mm. Hey, look at there, across the street. There's a car made just for me. To own that car would be a luxury. My dollar can even afford the gas. A brand new convertible. Car's fine looking, man. It's something else. Hey. Et regarde un peu cette voiture. On la dirait vraiment faite pour moi. Et il doit faire beau rouler avec ça. Mais quand je pense au prix que laisse.
Ça c'est génial, ça c'est génial, Fabien Lecoeuvre. Hein. C'est une très très belle anecdote.
C'est le rêve accompli.
Mais voilà,
oui,
le rêve d'une rencontre avec
Johnny
Hallyday.
Oui, Johnny Hallyday, Claude Moine, c'est le rêve accompli. C'est la chanson, elle est terrible. Tout le monde l'a reconnue. C'était déjà une adaptation de Little Richard, et ils rencontrent le rêve de leur enfance finalement.
Merci Fabien. Alors maintenant, on va revenir à notre chanson dans la tête à 3 jours d'un festival de Cannes annulé, hein, crise sanitaire oblige. Little Richard d'ailleurs a participé à de nombreux films. Voilà le lien qui est fait. On va revivre 4 grandes chansons de cinéma, à commencer par celle-ci, Fabien, la chanson de Lara, thème du docteur Jivago.
Un jour Lara, quand le vent a tourné, un jour Lara, nous nous sommes quittés.
La chanson de Lara, le docteur Jivago, grand classique du cinéma évidemment.
Oui, grand classique Wendy, puisque ce film a rapporté 2 milliards de dollars de recettes dans le monde depuis sa sortie aux États-Unis le 22 décembre 1965.
Incroyable.
Réalisé par David Lean, bien sûr, le même qui avait réalisé Laurence d'Arabie et Le pont de la rivière Kwai, et bien célèbre pour ses magnifiques décors. Tourné dans les studios hollywoodiens MGM avec Omer Sharif et Julie Christie, bien sûr. Les costumes, la musique, la chanson traduite en français sous le titre La chanson de Lara par Hubert Hittier et interprétée par John Williams au départ. Et puis bien sûr, il y a une version des Compagnons de la chanson qui a été très importante et très vendue aussi en France. Maurice Jarre a d'ailleurs obtenu l'Oscar en 1966 pour la meilleure musique de film.
Autre époque, autre style, ce soir qu'on partage sur Europe 1, James Bond est l'un de ses titres phares, Skyfall.
The sky falls when it crumbles. We will stand tall and face it all together.
Nous sommes en 2012 pour cette sortie cinéma, Fabien.
Et oui, et puis tous les films James Bond adaptés des romans de Ian Fleming, bien sûr, ont eu des chansons très fortes avec des interprètes très célèbres comme Shirley Bassey, qui en a enregistré 3, et pas des moindres, puisqu'il y a Goldfinger en 1964, Diamonds Are Forever, Les Diamants Sont Éternels en 1971, ou Moonraker en 1979. Et parmi les autres interprètes célèbres des chansons de James Bond, personne n'a oublié Paul McCartney et les Wings, c'était en 1973. Il y a eu aussi... Wendy, Tina Turner en 1995,
GoldenEye
bien sûr, qui était le générique du premier James Bond avec Pierce Brosnan, et puis Madonna en 2002, Meurt un autre jour, souvenez-vous, et plus récemment Adele en 2012 avec l'immense tube qu'on vient d'entendre, bien sûr, chanson titre du 23e James Bond réalisé par Sam Mendes avec Daniel Craig dans le rôle de 007. Cette chanson est l'un des singles les plus vendus de tous les temps, Wendy, avec 7 millions d'exemplaires.
Incroyable.
Adele, qui a coécrit et co-composé la chanson, a obtenu l'Oscar de la meilleure chanson originale, et ça c'était en 2013.
Voilà, ça fait déjà 2 Oscars pour ces chansons dans une chanson dans la tête. Chanson de film encore, qui a connu un immense succès planétaire, Staying Alive. Bee Gees sont dans la place, Fabien Lecoeuvre.
Et oui, puisque cette chanson du groupe, les Bee Gees, est sortie le 16 décembre 1977. On l'entend dès l'ouverture du film, La fièvre du samedi soir. Et l'album de cette bande originale de film a été enregistré en France. On oublie de le rappeler, au château d'Hérouville. Oui, c'est vrai. Oui, Wendy, au printemps 1977, dans le Val d'Oise, le premier studio résidentiel en France créé par Michel Magne, où les artistes s'installaient pour travailler. Johnny, Paul Naref, Mitchell, tous sont enregistrés d'ailleurs souvent dans ce studio d'Hérouville. Et cet album disco est l'un des plus vendus au monde, avec plus de 40 millions d'exemplaires, dont 25 millions entre 1977 et 1979. Et pour l'anecdote, Wendy, selon certains urgentistes et pompiers, il est recommandé de se remémorer Staying Alive en cas de massage cardiaque pour bien faire les compressions au bon rythme, puisque le tempo de la musique disco est basé sur le battement du cœur. Le saviez-vous?
Ah, pas du tout. C'est une anecdote incroyable. Staying Alive, on va réécouter rien que pour ça, pour les gestes de secours. Vous avez dit cœur. Eh bien, écoutez cette autre chanson magnifique qui le fait tourner.
Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur.
Cette chanson interprétée par Michel Legrand, composée par Michel Legrand, Fabien Lecoeuvre évidemment.
Oui, parce que Michel Legrand m'avait raconté un jour dans un dîner cette anecdote incroyable, comment il est arrivé sur ce fameux film L'affaire Thomas Krohn, évidemment. Alors c'était en 1968, et Michel Legrand est appelé au secours par le réalisateur Norman Jewison, qui n'arrive pas à monter son film tout en ayant tourné 5 heures d'image. Et Michel Legrand propose alors au réalisateur du film de composer seul, sans contrainte, 1 heure et demie de musique originale pour que le réalisateur puisse ensuite monter son film en se calant sur cette musique. Et ça, c'est une première à Hollywood, puisque la musique du film est créée et ajoutée après que le film ait été tourné et monté. Le résultat donne bien sûr l'affaire Thomas Krohn, où les plans suivent la musique originale de Michel Legrand. Il obtiendra d'ailleurs avec cette musique de film l'Oscar de la meilleure chanson originale.
Et ben voilà, un troisième, autre succès planétaire avec cette chanson interprétée par Whitney Houston. Partition incroyable pour le film Bodyguard, Fabien Lecoeuvre.
Mais oui, il s'agit d'une reprise d'une chanson de country écrite et composée par Dolly Parton et sortie en avril 1974, bien sûr, alors que le film Bodyguard est sorti en 92. Et la chanson, au départ, avait été créée pour son ancien Pygmalion, Porter Wagoner. Et dans ce titre qui s'adresse à un ancien amant, elle lui souhaite bonheur et amour. Alors au départ, pour la BO de Bodyguard, Whitney Houston avait prévu d'enregistrer une autre chanson. Mais comme ce titre avait déjà été utilisé dans le film Beignet et Tomate Verte, sorti l'année précédente, elle s'est repliée sur la chanson country de Dolly Parton.
On ne se souvient pas, mais...
Voilà, et oui, qu'elle transforme tout simplement en version pop. Et puis le single s'est vendu, Wendy, tenez-vous bien, à plus de 20 millions d'exemplaires, largement plus que la version originale de Dolly Parton, ravie, et on la comprend, de cette reprise. Selon un récent sondage, la chanson est toujours en tête du classement des plus grandes chansons d'amour mondiales. Voilà, ça nous va bien, ça.
Et c'est ainsi que s'achève une chanson dans la tête avec ces grandes chansons de films, alors que les festivals de films sont annulés, mais que vous n'oubliez pas justement comment cette partition peut aussi donner du relief à bien des longs-métrages.
Il est 19h02. Le grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1 avec Wendy Bouchard.
On attend avec grande impatience que les clients soient au rendez-vous parce que le chiffre d'affaires a baissé de 80% sur ces 2 mois. Hein.
Après 2 mois de paralysie, le pays va se remettre en marche lundi avec le début du déconfinement. Les commerces vont pouvoir ouvrir tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur.
Malgré des règles strictes concernant les regroupements pour les obsèques, des dizaines de personnes se sont réunies fin avril en Dordogne et au moins 9 d'entre elles ont été détectées positives au coronavirus.
Le vélo, l'alternative au transport en commun à partir du déconfinement et à Paris, c'est la ruée vers les boutiques.
C'est plus compliqué de se déplacer en transport en commun, donc retour au vélo. Après, on ne sait effectivement pas combien de temps ça va durer. Là, c'est la bonne saison pour s'y mettre.
On en parlait il y a un instant, la légende du rock'n'roll, un pionnier dans les années 50, Little Richard, interprète de Tutti Frutti, s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 87 ans.
Il a créé un personnage flamboyant, outrageux, pour faire passer son message, libérez-vous, éclatez-vous, faites du rock.
Et c'est Philippe Manœuvre qui nous en parlera sur Europe 1. On est ensemble jusqu'à 20h et on écoute Le Monde Changé.
Europe 1, écoutez Le Monde Changé.
Avec Sophie Tussaud pour le journal et la France qui entre dans sa dernière ligne droite avant le déconfinement, Sophie.
Oui, le pays va tenter de reprendre le cours de sa vie d'avant tout en gardant les fameux gestes barrières et le pays va également tenter de remettre à flot l'économie qui a été paralysée durant 2 mois. Dans les petits commerces, l'heure est au préparatif, comme vous l'avez constaté à Clichy en région parisienne, Théo Manval.
Ah oui, dernier coup de désinfectant sur les vitres, sur le comptoir pour Ellie dans son salon de coiffure.
Désinfecter un peu les poignets pour que ce soit tout prêt.
Il s'est fourni en masque, en gel hydroalcoolique, a espacé ses fauteuils. Il est prêt à rouvrir après ce grand ménage.
Franchement, j'ai hâte de commencer lundi. Je suis hyper content. Déjà de sortir de la maison, ça fait 2 mois que sans rien faire. À la fin, c'était insupportable. C'est pas juste pour l'argent, c'est pas que pour ça. On a la relation clientèle. Bien sûr, j'ai envie de les revoir.
Ici, ce sera masque obligatoire et 4 clients à la fois maximum. Dans la rue voisine, Franck Chourada réceptionne lui ses dernières commandes de produits sanitaires avant de pouvoir rouvrir son agence immobilière.
Et là, ça vous... il y a déjà le téléphone qui sonne.
Ben oui, permettez.
Bien sûr.
Et West, bonjour. Un appartement de... à l'achat.
Oui, alors ne quittez pas un instant.
On attend avec grande impatience que les clients soient au rendez-vous parce que le chiffre d'affaires a baissé de 80% sur ces deux mois.
Hein. Et attente aussi, mais plus prudente chez Sabrina, la fleuriste qui a terminé son réassort. Ses invendus depuis mi-mars représentent 3000 euros de perdus.
Moi, je pense qu'il peut y avoir de la retenue. Hein. Par rapport à ce que le Premier ministre a dit, les gens ils vont faire super attention, ils vont pas sortir comme ça. On croise les doigts. Croisez les doigts pour nous. Hein.
Allez, à défaut de pouvoir se serrer à nouveau dans les bras, Sophie, Wendy, on pourra au moins la semaine prochaine commencer par s'envoyer des fleurs.
Ouais, des belles, hein. Un bouquet, s'il vous plaît, Théo. L'approche du déconfinement, en tout cas, fait craindre l'apparition d'une seconde vague. Une crainte renforcée, Sophie, après l'apparition cette semaine d'un nouveau cluster en Dordogne.
Oui, au moins 9 personnes qui ont assisté dans ce département à des obsèques ont été testées positives au coronavirus. Le département est classé vert, mais le virus circule toujours. Il y a 2 jours du déconfinement, le préfet de Dordogne a mis en garde contre un relâchement. Michel Lafourcade est le directeur général de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine.
127 personnes ont été dépistées avec 103 résultats. Sur ces 103 résultats, 9 positif, 8 qui concernent le cercle familial et un autre qui concerne l'entreprise dans laquelle travaille la première personne testée positivement. La situation donc a été maîtrisée en moins d'une semaine grâce à la réactivité de l'ensemble des acteurs. Nous pensons que ce cluster ne doit pas avoir d'incidence sur la situation globale de ce département. La Dordogne peut concerner par le Covid dans une région qui elle-même est moins concernée que d'autres.
Michel Lafourcade, le directeur de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine. Une bonne centaine de personnes, donc vous venez de l'entendre, dont certaines venues de l'étranger qui se rassemblent forcément. Ça soulève beaucoup de questions. Chloé Triomphe, quelles sont les règles en la matière ?
Eh bien, elles sont très claires pourtant ces règles. C'est pas plus de 20 personnes au cimetière, employés des pompes funèbres compris, et encore moins dans les crématoriums qui sont des espaces fermés. Ce sont les règles en vigueur depuis la fin du mois de mars et qui, ajoutées au confinement, auraient dû permettre d'éviter ce rassemblement d'une centaine de personnes. Mais s'il est facile de contrôler le nombre de personnes au cimetière, en revanche, il n'y a pas forcément un policier ou un gendarme à chaque coin de rue pour contrôler un rassemblement dans une propriété privée et manifestement, le rapprochement familial a eu lieu après l'enterrement à proprement parler. Par ailleurs, l'autre question que cela pose, c'est comment certains membres de la famille ont-ils pu traverser les frontières pour se rendre en Dordogne ? Eh bien, il faut savoir que si les frontières sont fermées à l'extérieur de l'espace Schengen, elles ne le sont pas à l'intérieur de l'Europe. Il suffisait donc de remplir la fameuse attestation pour motif familial impérieux et un enterrement en éteint pour pouvoir passer tout à fait légalement, même en cas de contrôle.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1 et le dernier bilan en France vient de nous parvenir. Il fait état de 80 décès en 24 heures, 26 310 au total. Détecter les personnes infectées sera le rôle des fameuses brigades sanitaires voulues par le gouvernement dans le cadre du prolongement de l'état d'urgence sanitaire. Un dispositif créé dans l'article 6 du projet de loi actuellement en débat au Parlement. Il crée un système d'information pour identifier les personnes infectées, leur contact, un dispositif qui suscite beaucoup d'interrogations, notamment en ce qui concerne le secret médical.
Oui, Sophie, un secret qui ne sera pas remis en cause, rassure Nicolas Revel. Il dirige la Caisse nationale de l'assurance maladie. Il était l'invité d'Europe 1 à la mi-journée. Écoutez.
Ce secret médical, nous le gérons depuis maintenant 70 ans. Tous les jours, des données sont adressées par des médecins. Quand vous avez une affection de longue durée, que vous avez un cancer, un diabète, le médecin déclare à l'assurance maladie que vous avez cette pathologie pour qu'on puisse vous prendre en charge à 100%. Quand vous avez un arrêt de travail que vous envoyez à l'assurance maladie, le motif y figure.
Donc il n'y a pas de risque pour vous de brèche du secret médical. Il n'y a
non,
pas de brèche.
Parce qu'aujourd'hui, l'assurance maladie est partie prenante de la gestion des données couvert par le secret médical. Nous le faisons de manière sécurisée. Ce ne sont pas nos 65 000 collaborateurs qui accèdent à ces données. C'est un petit nombre d'entre eux qui sont habilités pour cela, qui ont des règles déontologiques strictes. Et donc, ça n'a rien de nouveau. Et c'est bien pour cette raison-là que l'assurance maladie a été mise au cœur de ce dispositif. Parce que nous sommes présents partout et parce que nous gérons tous les jours avec les médecins et les patients des données qui sont précisément des données sensibles.
Nicolas Revel, le directeur général de la CNAM, avec Fabienne Lemoyle sur Europe 1. Les transports cristallisent avec le retour des enfants à l'école, la crispation de ce déconfinement, notamment en Ile-de-France, où 5 millions de personnes se déplacent tous les jours. La RATP a déjà annoncé 75% de services. La capacité d'emport sera limitée à 15%, Wendy.
Et la SNCF, de son côté, a également précisé son dispositif, notamment en ce qui concerne le flux de voyageurs, Aurélien Fleureau.
Oui, parce que cela reste bien sûr l'incertitude majeure dans les transports. Combien de personnes, à quel moment? Alors pour anticiper au mieux, la SNCF met en place un poste de commande spécial déconfinement basé à la gare de l'Est à Paris pour gérer l'ensemble du réseau national, mais avec une attention particulière sur les trains de banlieue, les transiliens en Ile-de-France. Il y aura notamment du personnel chargé de réguler ces flux en temps réel sur le terrain, comme l'a expliqué ce matin lors d'une visioconférence Christophe Fanichet, le président de SNCF Voyageurs.
Nous avons décidé de mettre des vigies pour surveiller l'affluence sur les quais les plus chargés. Cette personne-là regardera la façon dont les voitures sont chargées. Elle appelle son collègue de la gare d'après et lui dira « Attention, les trois voitures de tête sont complètes. Fais le nécessaire pour déplacer les voyageurs afin qu'ils puissent néanmoins monter et dans les voitures suivantes. »
100 000 cheminots sur le pont dès lundi, 8 000 trains en circulation contre 3 500 actuellement, avec deux nouveautés à avoir en tête principalement pour les voyageurs qui prendront un TER, une information la veille sur l'affluence prévue à bord de votre train pour changer d'horaire s'il s'annonce bondé, et puis l'obligation d'avoir un coupon pour accéder à votre TER. C'est un dispositif qui est en place dans 5 régions, Normandie, Hauts-de-France, Centre-Val de Loire, Occitanie et Bourgogne-Franche-Comté.
Aurélien Fleureau.
En tout cas, prendre le métro ou les TER pour se rendre sur son lieu de travail inquiète beaucoup de salariés.
Alors, il y a une alternative, et bien c'est le vélo. Et il bien soit faire réparer le sien ou en acquérir un nouveau. Dans certaines boutiques, c'est la surchauffe, comme à Paris dans ce magasin du 20e arrondissement. Mathieu Bock.
Pendant qu'à l'intérieur de la boutique, les employés préparent les vélos, sur le trottoir, les clients patientent. Pour eux, plus question de retourner dans le métro à partir de lundi. Alors le vélo est devenu une évidence.
Je suis venu faire réparer mon vélo, là je viens le chercher, il est réparé.
Arrêtez de prendre le métro, enfin le moins possible, on a des enfants en bas âge, donc on se déplace le plus possible à vélo et dans notre quartier, donc pas trop loin.
C'est plus compliqué là, se déplacer en transport en commun, donc retour au vélo. Après on sait effectivement pas combien de temps ça va durer. Là c'est la bonne saison pour s'y mettre, c'est pas la peine d'attendre l'automne.
Je pense qu'on peut éviter les risques de contamination, donc c'est quand même mieux. Et puis c'était mon anniversaire, donc c'était l'occasion.
Le patron Pierre Libin a continué à travailler seul dans sa petite boutique pendant le confinement, mais aujourd'hui son activité a doublé, il a presque du mal à tenir le rythme.
Il est assailli. Tout le monde veut réparer son vélo, tout le monde en veut un.
J'avais un gars que je prenais à mi-temps et maintenant je le prends à plein temps. Et puis là, j'ai embauché mon ami que j'avais sous la main, on va dire, tout de suite pour vendre des vélos avec moi et je le forme en même temps.
Les stocks de vélos et de pièces détachées se vident à vue d'œil, mais Pierre Libin redoute de ne pas pouvoir se réapprovisionner rapidement car tous ses fournisseurs sont en Chine et sont donc restés fermés durant plusieurs mois.
Mathieu Bock.
Et puis il a fait danser des générations sur des rythmes endiablés. Little Richard s'est éteint aujourd'hui. Il avait 87 ans, Sophie Tussaud.
Une véritable légende du rock'n'roll, pionnier également, puisque comme Chuck Berry et Fat Domino, il avait contribué à l'émergence de ce son nouveau dans les années 50. Un personnage qui a marqué son époque et son milieu musical, selon Philippe Manœuvre.
C'est un noir qui chante le rock'n'roll, c'est le premier de tous, quoi. Et il va créer un personnage flamboyant, outrageux, avec une coiffure qu'on appelle la pompadour, avec des bouts n'hésitant pas à s'habiller en pape pour certains concerts, mettant des boucles d'oreilles, enfin se présentant comme un excentrique absolu pour faire passer son message, qui était un message « libérez-vous, éclatez-vous, faites du rock ». Il y a bon nombre de jeunes musiciens qui lui doivent beaucoup. Je pense notamment à Jimi Hendrix, qui a été le guitariste de Little Richard pendant 2 ans, et qui a appris tous les trucs et les tours auprès du pionnier du rock'n'roll, quoi, qui a un peu construit son personnage en regardant tous les soirs Little Richard faire son show incroyable sur scène. Morning, Lucille was not in sight. I asked my friends about her, but all the list was tight. Lucille,
please come back while you belong. Little Richard.
Et le cri satanique dont nous parlait Fabien Lecoeuvre il y a quelques instants. Sophie Tussaud, on vous retrouve pour l'essentiel de l'info à 19h30 sur Europe 1. Et vous Valérie Darmon, avec ce temps, on n'y aura pas les petits oiseaux comme chez Philippe Manœuvre. Hein. Demain, temps dégradé et grosse instabilité dans notre ciel.
Eh oui, bah on peut quand même danser sous la pluie, en tout cas sur la partie nord, pas dans le sud-ouest, ça c'est sûr, sinon c'est trop dangereux. Parce que c'est vrai qu'on a le Gers, la Gironde, le long des Pyrénées-Atlantiques, voilà, et l'Haute-Pyrénées, en alerte orange orage à partir de 14h demain. Donc là, on reste chez soi tranquillement, ça tombe bien, on est confiné encore demain. Oui. En revanche, des pays de la Loire et de la Bretagne jusqu'au nord de l'Auvergne, la Bourgogne, la Lorraine, la Champagne, les Ardennes, en passant par l'intérieur de la Normandie et le bassin parisien, les averses se multiplient aussi, mais elles sont moins orageuses. Elles deviennent très orageuses en fin de journée et dans la soirée. Bon, évidemment, les températures, elles chutent sous toute cette pluie. Entre 21 et 25 degrés en général, 18 à 21 sur les côtes de la Manche et les plages de Méditerranée, jusqu'à 26 encore en Aquitaine, hein, en Auvergne, en Rhône-Alpes et du Val-de-Saône à la plaine d'Alsace. Elles chutent, mais elles remontent mardi. Hein. Ces intempéries, on les a jusqu'à lundi en fin de journée.
Merci beaucoup. On suit la situation avec vous, Valérie Darmon.
Bon week-end à l'écoute d'Europe 1, 19h16. À suivre, Wendy Bouchard.
Eh bien, cette question, vaste question, comment réinventer l'économie de demain et nos échanges internationaux? Notre invité ce soir est son expertise, Pascal Lamy, ancien patron de l'OMS, qui réagit en direct sur Europe 1. L'OMC, pardon.
Leclerc. Depuis 70 ans, on soutient les producteurs de nos régions. Aujourd'hui, plus que jamais, priorité au local. Chaque semaine, nos magasins financent le ticket Leclerc solidaire sans faire baisser les prix des producteurs. Cette semaine, bénéficiez de 20% en ticket Leclerc solidaire sur les fraises Origine France. Un bon moyen pour soutenir les filières et se régaler. Leclerc.
Offre valable jusqu'au 9 mai, réservée aux porteurs de la carte Leclerc, voire conditions en magasin et drive participants.
Et on retrouve Wendy Bouchard pour la suite du grand journal du soir sur Europe 1. Nos invités nous éclairent sur ce monde qui change et auquel on doit s'adapter.
Oui, bonsoir Pascal Lamy.
Bonsoir Wendy Bouchard.
Vous avez dirigé l'Organisation mondiale du commerce européen convaincu, on parlera de l'Europe dans un instant, et observateur de la vie politique. Je vous remercie d'être avec nous ce soir, vous qui étiez en studio pour une de nos dernières émissions en studio. C'était le soir du 14 mars, lorsque Édouard Philippe annonça la fermeture des restaurants, des bars, des lieux publics. C'était un choc que nous vivions en direct, c'était il y a 2 mois avant la décision du confinement. Vous pouviez pressentir à ce moment-là la catastrophe économique qui pouvait s'en suivre, Pascal Lamy?
Ce que je présentais à l'époque, et on en avait discuté tous les deux à l'antenne d'ailleurs, c'était que la santé l'emporterait sur l'économie.
Oui.
Sauver des vies plutôt que sauver les emplois. C'est un choix qui n'a été délibéré nulle part, que tout le monde a fait, et d'ailleurs ceux qui ont pensé un moment en faire un autre se sont vite plantés. Et donc, c'est du passé. La question maintenant, c'est de savoir comment on en sort, étant entendu que ce virus et la réaction qu'il a entraînée et qui est la même partout, en tout cas pour ceux qui ont les moyens d'arrêter leur économie, ou en tout cas de la faire tourner au ralenti, c'est évidemment un impact économique et social gravissime pour tout le monde, surtout pour les pays les plus pauvres. En ordre de grandeur, hein, 1 mois de confinement dans ce monde, c'est 1 an de croissance. Mmh. Évidemment, un redémarrage dont on peut prévoir qu'il sera très lent, compte tenu du fait que beaucoup de chaînes logistiques ont été endommagées, que beaucoup de capacités de production ne vont pas redémarrer très vite, même si la Chine, elle, est en train de repartir apparemment à un assez bon rythme.
Oui, voilà comment on se prépare en ce moment à différents scénarios. Ce que doivent affronter les États en ce moment est de haute volée, savoir si la consommation reprendra et à quel rythme. En effet, Pascal Lamy, vous nous parliez à l'instant des perdants, les pays les plus pauvres, les pays du Sud, entre autres. Mais est-ce qu'il y aura des gagnants, si j'ose dire, dans cette crise, dans cet épisode traumatique que nous vivons?
Je ne crois pas. Au plan géopolitique, il y a 2 grands perdants. Les États-Unis et la Chine, qui vont être tous les deux affaiblis par leur gestion de crise et qui, évidemment, s'accusent mutuellement. C'est quand même les 2 grandes puissances mondiales d'aujourd'hui. Il y a des gagnants au plan géopolitique, mais ce sont des puissances moyennes comme l'Allemagne, comme la Corée. Qui s'en sortent apparemment plutôt bien, mais dont l'influence est très limitée. Donc au total, c'est un monde qui sera plus divisé, probablement plus dangereux, au plan géopolitique, au plan géoéconomique. Le secteur gagnant À l'évidence, et je participe à beaucoup de conversations nationales, européennes, internationales, mondiales là-dessus, c'est le digital.
Oui.
Notre monde aura été projeté dans l'avenir digital à 5 ans de ce qu'aurait été l'évolution normale. Alors évidemment, ça pose la question européenne. Est-ce que l'Union européenne, dans cette affaire, ressort gagnant ou perdant? Je pense qu'aujourd'hui, la réponse n'est pas claire. Ça va dépendre des décisions à prendre au niveau européen dans les prochaines semaines sur la sortie de crise et sur ce fameux plan de relance économique qui semble se préparer à Bruxelles.
Oui, c'est ça, avec ces 19 ministres des Finances de la zone euro qui se sont réunis hier. On peut parler de, parce que vous évoquez ces conversations que vous avez, Pascal Lamy, elles sont nombreuses, au cœur aussi du forum sur la paix que vous présidez et qui se tiendra bien au mois de novembre. Vous allez en particulier l'axer, et ça nous concerne directement dans cette réflexion, sur la gouvernance de la santé, avec la nécessité de partage d'expérience, et on y est déjà.
Oui, c'est une grande question. À l'évidence, le niveau de gouvernance mondiale, comme on dit, en matière de santé, ne correspond pas aux nécessités. L'expérience du coronavirus l'a montré, et donc ça fait partie des secteurs de la vie internationale qu'il faut reconstruire, rebâtir, en tout cas améliorer. Oui. Simplement, ça va être dur parce que le monde de demain, le monde post-coronavirus sera probablement plus divisé et le multilatéralisme encore plus poussif qu'il ne l'était en avant. Et c'est là qu'on revient à la question européenne. Parce que beaucoup de choses vont dépendre de la capacité de l'Europe à elle-même relancer sa machine économique. Et la question pour nous, Européens, elle est assez simple. C'est un, il faut faire beaucoup et vite. Et deux, il faut se mettre d'accord pour répartir l'effort entre les budgets des 27 États membres et le budget européen. Et là, il y a deux risques. Un, que la Commission joue petit bras sous influence allemande, parce que l'Allemagne voit moins mal que les autres, elle n'a pas très envie de partager. Et ça, c'est le risque que la Commission, sous cette influence, fasse une proposition insuffisante. Et ensuite, le deuxième risque, c'est que le plan de la Commission s'embourbe, comme ça arrive parfois au niveau européen, dans des délibérations interminables. Et on va proposer, nous, Institut Jacques Delors, Bruxelles-Paris, jeudi prochain, on va le rendre public, un plan d'investissement de 800 milliards d'euros destiné à quelques secteurs qui pourraient servir d'exemple pour le reste et qui feraient du pire deux coups, relancer l'économie européenne, il faut absolument faire, et accélérer la transition écologique dans des secteurs comme l'économie d'énergie, l'automobile, l'économie circulaire, le tourisme. Donc on va faire notre proposition parce qu'on est un peu inquiet, pour être tout à fait franc, de ce qui se concocte plus ou moins bien à Bruxelles.
Oui, et là, cela rejoint les propos que tenait sur notre antenne à votre place et à la même heure la semaine passée Bertrand Piccard, qui, derrière lui, avec sa fondation Solar Impulse, draine une dizaine de grands chefs d'entreprise dans cette relance propre de l'économie. Et j'imagine que cela vous parle.
Oui. Un type formidable.
Que vous convoquerez, j'imagine. Pascal Lamy, nous parlions il y a deux mois aussi de l'éventuelle relocalisation. Alors, je ne fais pas appel ici aux théoriciens de la décroissance et de l'hyperlocal, mais on a bien vu dans cette crise que des marchés trop lointains, et notamment sur l'économie de la santé, sur le problème des masques, du paracétamol, les marchés chinois, nous rendaient trop dépendants. Est-ce que cela va avoir un effet aussi très clair quand même sur la relocalisation de certaines de nos entreprises?
Oui,
ou de nos productions, du moins.
Sans doute, parce qu'effectivement, certaines de ces chaînes de valeur, comme on dit, se sont avérés trop fragiles, trop distendus, n'ont pas résisté à des ruptures logistiques, pour ne pas parler des restrictions aux exportations qui sont intervenues au niveau-là et qui menacent beaucoup de populations dans ce monde du point de vue alimentaire. Hein, quand on regarde l'Afrique ou l'Amérique latine, le risque principal aujourd'hui, ce n'est pas le virus, c'est la famine.
Oui.
Donc, pour revenir à votre question, oui, il y aura certaines relocalisations, mais il faut simplement être bien clair sur le fait que si on le souhaite, et c'est souhaitable dans certains domaines, ça aura un coût. Hein ? Si un certain nombre d'entreprises ont réparti dans le monde leurs unités de production, en mettant par exemple certaines en Chine, c'est évidemment d'abord pour vendre sur le marché chinois. Bon, c'est aussi pour produire, là où la Chine a des avantages comparatifs, et notamment pendant longtemps sur les salaires, pour exporter ailleurs dans le monde. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce que ça coûtait moins cher. Et donc, faire l'inverse, ça va coûter plus cher. Je pense que c'est ce qu'il faut faire dans certains domaines. Simplement, pour ça, il faut s'organiser. Ça ne va pas se faire tout seul. Certaines entreprises vont le décider. Elles ne retireront pas l'origine en Chine. Elles en mettront peut-être une ou deux ailleurs. Mais s'agissant des questions stratégiques, critiques, ce qu'on appelle maintenant à Bruxelles l'autonomie stratégique, il faudra être précis dans ce qu'on veut faire. Est-ce que c'est le secteur de la santé? Quelles molécules? Quels équipements? Est-ce qu'on veut tout rapatrier? Ou est-ce qu'on veut rapatrier seulement des morceaux? Qui va payer l'addition? Dès lors qu'on a un débat franc, honnête, ouvert là-dessus, alors effectivement, il faudra le faire dans certains secteurs.
Eh bien, merci de votre éclairage une fois de plus, Pascal Lamy. Je vous donne rendez-vous dans 2 mois. Si vous voulez bien, ça va être notre régularité de conversation sur cette antenne, mais vous avez beaucoup à dire.
Très volontiers. Et j'espère que dans 2 mois, on sera en studio, sans en être totalement sûr.
Avec un grand plaisir. Merci beaucoup, Pascal Lamy, de votre présence ce soir sur Europe 1. Bonsoir.
Jusqu'à 20h, c'est le grand journal du soir sur Europe 1 avec Wendy Bouchard.
Voici l'écho de la planète, le journal de l'environnement présenté chaque samedi par Virginie Salmen. Bonsoir Virginie.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. À la une, où et comment pourrons-nous retourner nous promener dans les jardins, les parcs et forêts? Les gestes contre-intuitifs en cette période d'épidémie. Acheter plus d'emballages en plastique pour se protéger, fausse bonne idée. Et puis comment économiser près de 40% sur ses factures d'énergie? Ce sera le conseil de ma copine Catherine.
Alors on va commencer par ces balades en pleine nature qui vont pouvoir reprendre elles aussi.
Oui, les parcs et les jardins publics vont rouvrir dans toute la zone verte. Malheureusement pas pour l'instant dans le quart nord-est de la France qui est en zone rouge. Mais pour les forêts, elles rouvrent sur tout le territoire sauf décision contraire du préfet. Alors le déconfinement coïncide avec la période de reproduction des hérissons, renards, grenouilles, oiseaux. D'habitude c'est une période où il est conseillé de faire attention où on marche et de ne pas retourner les pierres ou secouer les arbres. Il peut y avoir des nids. Mais cette année c'est vraiment spécial, insiste le directeur de la Ligue de protection des oiseaux, Yves Verriac.
Là, c'est pire cette année, parce que certains animaux se sont installés à des endroits où ils ne l'auraient pas fait en temps normal. Ils ne l'auraient pas fait parce qu'il y a de la circulation piétonne, routière, il y a des gens partout, et donc on va y retourner. Donc si vous prenez, par exemple, les plages, il y a des petits oiseaux littoraux, la famille des gravelots, qui nichent par terre. Vous pouvez pratiquement pas voir leurs œufs tellement ils ressemblent au gravier, aux cailloux. Et donc en fait, on risque de marcher dessus. Ils se seraient pas mis à cet endroit-là parce qu'il y avait des gens qui passaient tout le temps, mais comme personne passait, ils se sont installés. Et quand on va arriver, ben on risque effectivement de détruire des nichés sans le faire exprès, évidemment. Ce qu'on peut faire déjà, c'est éviter de sortir des sentiers battus, en particulier en forêt. On peut éviter de marcher en haut des dunes. Si on va sur la plage, il vaut mieux être au bord parce que les oiseaux, ils ont pas niché là où les vagues montent. Et puis partout, éviter de tailler. Il faut absolument pas tailler les haies en ce moment.
Voilà, parce qu'il y a des nids hein, dans les haies ou dans les arbres. Donc quand on entrera dans la forêt, il ne faudra pas le perdre de vue. C'est comme si on entrait dans une nursery qui a un peu perdu l'habitude des hommes. Mmh. Attention aux chiens notamment, ils doivent être tenus en laisse jusqu'au 30 juin.
Nous l'avons peut-être fait sans nous en rendre compte, acheter davantage de produits sous plastique, davantage que d'habitude dans cette période d'épidémie, Virginie Salmen.
Oui, souvent le plastique paraît plus hygiénique pour les emballages de nourriture par exemple. Eh bien ça fait partie des fausses bonnes idées du moment puisque c'est l'une des surfaces sur lesquelles le coronavirus vit le plus longtemps. Autre geste contre-intuitif pour ceux qui profitent d'un jardin en ce moment, brûler des déchets végétaux, 50 kilos de branches et de feuilles, eh bien ça équivaut en termes d'émissions de particules fines à un trajet de 14 000 km dans une voiture essence récente, selon une campagne de sensibilisation lancée par le ministère de la Transition écologique, qui met aussi en garde sur les lingettes désinfectantes. Vous savez, les ventes explosent en ce moment. Elles sont composées de plastique, donc à ne surtout pas jeter dans les toilettes. Ça coûte chaque année plus de 160 millions d'euros pour déboucher les canalisations.
Et je suis sûre que votre copine Catherine, dont on va suivre les conseils dans un instant, vous dirait il n'y a rien de mieux que le savon. Hein. Et d'ailleurs, absolument. Si vous achetez de l'emballage plastique, vous savonnez aussi à l'eau savonneuse. Elle est là, votre copine Catherine. Elle vous parle de quoi cette semaine ?
Alors, je vous avais parlé du défi famille à énergie positive dans lequel elle s'était lancée avec 7 autres familles.
Oui.
L'objectif, c'était de réduire au maximum leur consommation d'eau, de gaz et d'électricité, bref, d'économiser des ressources et de l'argent. Eh bien, ça vient de se terminer il y a quelques jours. Le bilan, ils ont réussi à réduire de 28% leur consommation par rapport à l'an dernier.
Bien,
et la famille de Catherine elle-même a atteint moins 38%, la bonne élève. Mmh. Malgré un léger dérapage, constate-t-elle en tout début de confinement, à tel point que GRDF lui a remboursé 2 mois de facture. Ça représente 1 tonne de CO2 en moins. La clé du succès, dit-elle, régler son chauffage à 19 degrés dans la pièce à vivre et 17 dans les chambres. Bon, elle a un bon pull. Elle rêve qu'on puisse faire de telles
bonnes couettes. Oui.
Voilà, c'est ça. Et elle rêve qu'on puisse faire de telles économies à l'échelle d'une ville ou bien du pays tout entier. Voilà pour le conseil de Catherine Margne.
Famille à énergie positive. Merci Virginie Salmen pour cet écho de la planète. Vous qu'on retrouve samedi prochain pour cette chronique sur Europe 1. Merci.
Bonsoir.
19h31, la suite du Grand Journal du Soir avec Wendy Bouchard.
Oui Marlène, et si vous nous rejoignez, voici l'essentiel de l'actualité de ce samedi 9 mai, jour de l'Europe. Sophie Tussou.
La prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet définitivement adopté, le Parlement vient de le valider. C'est le plus faible bilan quotidien depuis début avril, 80 décès supplémentaires en 24 heures, 26 310 au total depuis début mars, selon la Direction Générale de la Santé. Le nombre de patients en réanimation continue de diminuer. Attention au relâchement. À 2 jours du déconfinement, au moins 9 cas de coronavirus ont été détectés en Dordogne à la suite d'une réunion de famille lors d'obsèques, un département pourtant en zone verte. Et puis il était un génie du rock'n'roll et avait permis l'émergence de cette musique dans les années 50, comme l'avait fait Fat Domino ou Chuck Berry. Little Richard s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 87 ans.
Merci Sophie, à tout à l'heure 20h pour l'info.
Et voici comme chaque samedi dans ce grand journal, l'œil de Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP.
Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
On suit avec vous la perception semaine après semaine de la crise par les Français grâce à toutes vos enquêtes d'opinion. D'abord, font-ils confiance au gouvernement pour gérer maintenant le déconfinement ?
Oui, c'est vrai Wendy, après 54 jours de confinement, l'air est venu d'un bilan et c'est vrai, on l'a vu semaine après semaine, le contexte général est un contexte de défiance. Seul un gros tiers des Français interrogés il y a quelques jours par l'IFOP avec Fiducial et CNews expriment leur confiance à l'égard du gouvernement pour préparer le pays au déconfinement. D'une part, c'est très en deçà de la confiance mesurée dans la plupart des pays européens.
Oui.
Et puis cette perception est confirmée quelle que soit la catégorie de population, sauf les catégories sociales supérieures et l'électorat d'Emmanuel Macron.
C'est une perte que de confiance que vous analysez comment ? Parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, on le sait, depuis maintenant 2 mois dans le pays.
Oui, je pense que ce résultat, cette défiance qui s'est enracinée, est révélateur d'un double reflet. D'abord, il y a Wendy, ce discours très ambivalent des Français sur ce cap du 11 mai. Après 2 mois de confinement, cette période inouïe, inédite, hors norme, il y a des sentiments mêlés, l'espérance d'un retour à la normale, d'interrogations sur le retour à l'école, le retour dans les transports en commun, une inquiétude, une impatience, tout ça se mélange et je dirais constitue un moteur du scepticisme. Mais au-delà de ça, quand même, cette défiance, c'est le reflet des traces, du ressenti, de la mauvaise gestion gouvernementale de la crise sanitaire. On l'a vu semaine après semaine avec nos enquêtes, on a vu des Français très critiques, avec désormais comme première grille de perception, de compréhension de l'action du gouvernement, de cette gestion de crise, le sentiment de tromperie avec un chiffre très fort publié il y a 2 jours, 80% des Français considèrent que le gouvernement a caché certaines informations pendant cette crise. Tout ça, bien sûr, c'est à mettre en parallèle avec cette question centrale des masques qui a complètement empoisonné la relation de confiance des Français avec le pouvoir et qui a fragilisé cette confiance.
Et ça continue avec l'affaire des masques et des stocks détruits. J'ajoute que, selon un autre institut de sondage, 72% des Français maintenant redoutent une nouvelle vague, un nouvel épisode de confinement. Donc on verra comment les choses s'organisent. Mais l'après, l'horizon ne se dessine pas de manière sereine pour la population. Très clairement aussi pour l'IFOP, Frédéric Dabi.
Oui, il y a clairement, on est dans un saut dans l'inconnu. Je le répète, après une période si inédite, comment les Français se projettent? Comment anticipent-ils le retour au travail, le retour de leurs enfants ou pas à l'école? Tout ça, je dirais, se mélange et les inquiète considérablement. Il y a, vous le disiez, par rapport au sondage d'un de mes confrères, cette inquiétude sanitaire. Il y a aussi, plus que jamais, et peut-être même de manière encore plus intense, l'inquiétude économique. 90% des Français redoutent des conséquences économiques très négatives.
Et cela étant dit, Frédéric Dabi, il y a un personnage de l'exécutif qui très clairement, et semaine après semaine, tire son épingle du jeu, c'est Édouard Philippe, le Premier ministre.
Oui, cette période a révélé Édouard Philippe comme dirigeant politique rassurant pour les Français. D'abord, on peut le dire, il connaît, alors avec des grands guillemets, une forme d'état de grâce. Dans la dernière enquête IFOP fiduciale pour Paris Match, il a une popularité qui progresse de 3 points s'agissant de son action au mois de mai. Il avait déjà gagné 7 points au mois d'avril, quand dans le même temps, Emmanuel Macron reculait de 6 points. On a, et c'est assez rare de le souligner, des évolutions antagonistes de la popularité des deux têtes de l'exécutif.
Clairement, comment vous l'expliquez?
Clairement, les Français considère qu'Édouard Philippe inspire et génère de la confiance. Et ils lui reconnaissent deux qualités majeures qui lui permettent justement d'enrayer ce climat de défiance dont on parlait précédemment. D'abord, Édouard Philippe, c'est une sorte de parler vrai. Un parler vrai assez rocardien, qui rappelle un peu les discours très francs du Premier ministre de François Mitterrand dans les années 80. Une posture de franchise avec une posture d'humilité. Il dit à plusieurs reprises « je ne sais pas tout », ce qui apparaît plus positif chez les Français qu'un discours parfois jugé péremptoire de la part des autorités scientifiques. Une sincérité sur les conséquences de la crise. Lui, le premier, il a parlé de risque d'écroulement de l'économie. C'est cette transparence avec un discours qui n'est pas jugé infantilisant, qui lui permet d'enrayer la spirale de la défiance. Mais il y a d'autres qualités qui lui sont prêtées.
Un sentiment de proximité, notamment. Il va vraiment dans le détail. Chacune de ses allocutions est assortie d'énormément de détails, pour tous les secteurs d'ailleurs auxquels il s'adresse.
Voilà, c'est vrai que la proximité, on le sait, on le voit dans toutes les enquêtes, notamment qualitatives, c'est l'attente numéro un des Français. Sur cet item, il a gagné 9 points en 2 mois dans le baromètre IFOP fiducial pour match. Le sentiment qu'il prend compte les préoccupations des Français. Et là encore, ses prestations télévisées lui ont permis de gagner en termes de perception. Il est jugé pédagogue, calme dans ses différentes interventions médiatiques. Et puis, surtout, il aborde la question centrale de l'après 11 mai, du futur quotidien de nos vies, alors qu'Emmanuel Macron apparaît davantage au-dessus de la mêlée, il dresse plus les objectifs à moyen terme. C'est lui qui avait annoncé ce cap fatidique du 11 mai, mais c'est Édouard Philippe et son gouvernement qui a été chargé de le mettre en musique plus que jamais. Il y a un style Édouard Philippe qui séduit et renforce sa légitimité à son poste comme homme fort dans cette phase particulièrement délicate du déconfinement.
Oui, alors que les Français peuvent juger de nouveau Emmanuel Macron comme arrogant. J'en parlais avec Jacques Weber tout à l'heure, sa posture sur les artistes auxquels il demande d'enfourcher le tigre, et puis cette petite polémique sur le bronzage qui n'est pas forcément celui qu'on imagine pour un président en temps de crise. Vous avez fait le distinguo, voilà, entre ces deux têtes de l'exécutif et Édouard Philippe qui marque des points. Frédéric Dabi est toujours avec nous et votre œil a suivi assidûment, et c'est peut-être le cas de nos auditeurs d'ailleurs, les magnifiques partitions offertes chaque jour sur Twitter par le violoniste Renaud Capuçon, comme celle d'hier. Petit extrait. Artiste confiné, Frédéric Dabi, que Renaud Capuçon met tellement généreux.
C'est vrai, Renaud Capuçon, vous le disiez, a joué quotidiennement une œuvre pour violon, une œuvre consolatrice qui nous permet d'échapper au contexte de confinement. Quand je l'entends, j'ai essayé de l'écouter assez souvent ces 53 derniers jours. Je me rappelle la phrase de Gérard Depardieu dans le film Le Dernier Métro. L'écouter, c'est une joie et une souffrance. Une joie parce qu'on écoute un artiste, on profite à domicile de son talent, et une souffrance de le voir aussi enfermé. Quand Renaud Capuçon, je dirais, s'épanouit dans des salles de concert, dans des lieux un peu magiques, une situation qui renvoie aussi au contexte anxiogène autour de cette pandémie.
Renaud Capuçon enfermé, mais pas enfermé dans son monde. La preuve, il a aussi pris fait et cause pour la défense des artistes tout récemment.
Oui, j'ai également retenu l'engagement de Renaud Capuçon, qui n'est pas uniquement dans son univers musical, mais qui s'investit dans les affaires de la cité. On a vu il y a une dizaine de jours une tribune dans le JDD où Renaud Capuçon interpellait les pouvoirs publics sur la situation de la culture en France, sur la nécessité de réinventer avec panache, dit-il, les accès au théâtre, aux salles de cinéma et de concert, avec un message fort qui doit inspirer les décideurs publics pour l'après 11 mai, la culture ne doit pas être le dernier wagon du déconfinement.
Et bien voilà, c'est ce qu'on disait également avec Jacques Weber tout à l'heure, interview à réécouter, comme vos propos à partager en podcast, Frédéric Dabi, pour votre œil, qu'on retrouve chaque semaine, chaque samedi sur Europe 1 pour l'IFOP et pour nos auditeurs. Merci Frédéric.
Merci Wendy, au revoir à tous.
Il est 19h40, Wendy Bouchard, à suivre dans ce grand journal du soir.
Eh bien cette question, comment les restaurateurs gèrent-ils l'attente du déconfinement? C'est notre dossier avec deux invités à la une et puis les petites voix d'Europe 1, votre rendez-vous. Réflexion des enfants face au coronavirus et à deux jours de l'ouverture de certaines écoles.
Jusqu'à 20h, nous sommes avec vous, Wendy Bouchard. On vous retrouve pour la suite du Grand Journal du soir. Et comme chaque samedi sur Europe 1, on prolonge un dossier au cœur de l'actualité. Voici notre affaire à suivre.
Et les restaurateurs, face à l'attente de la réouverture de leurs établissements, ils en sauront davantage sur leur sort à la fin du mois. Pour ne pas mourir, certains ont multiplié les initiatives tout en respectant la loi et les obligations. Et nos invités nous en parlent ce soir. D'abord, le chef étoilé Olivier Nasty. Bonsoir à vous.
Bonsoir à tous, bonsoir Wendy.
Merci d'être avec nous, qui êtes chef 2 étoiles au guide Michelin installé à Kaysersberg dans le Haut-Rhin. Devant l'incertitude qui entoure votre profession, Olivier Nasty, vous vous êtes adapté en développant notamment le drive. Racontez-nous comment vous vous y êtes pris depuis longtemps et comment les clients peuvent participer aussi à cette alternative.
Alors maintenant, depuis 3 semaines, on a décidé de reprendre le travail puisqu'on n'avait pas de perspective et on a décidé de reprendre l'activité traiteur, le service à domicile. Et puis l'idée m'est venue de faire un drive. Ma maison se prête bien à tout ça et la communication a fait que, et le soutien surtout, je pense plus que la communication, le soutien de la population a fait que les clients sont venus en nombre on a un vrai beau soutien. Et au-delà de ça, le soutien qu'on peut apporter à ma maison fait revivre une petite économie locale et circulaire. Et puis, on peut que saluer tout ça. On est très, très content d'être retourné au travail, à vrai dire.
Bien sûr. Sachant que vous avez dû démarcher un public particulier en adaptant vos prix ou ça s'est fait de manière assez fluide entre eux et vous?
Alors, on a adapté. On a naturellement, si vous voulez vous adresser à un plus large public, on est resté assez doux dans les prix. Par contre, on a fait un travail de haute bistronomie, très soigné, avec toujours des produits. Je me suis engagé de prendre que des produits locaux, en tous les cas de la vallée d'où j'habite et puis d'un entourage proche. Un boîtage en éco-responsable, avec un label éco-responsable. Voilà, oui. on a mis un vrai concept en place et puis ça fonctionne plutôt bien. On est content de ce travail. Naturellement, ça couvrira jamais une entreprise comme la nôtre qui a quasiment 60 personnes avec un hôtel, avec un restaurant et un bistrot attenant, quoi.
Bien sûr, ça a permis simplement de redémarrer et de ne pas perdre le contact avec votre clientèle aussi. Voilà pourquoi vous avez développé ces offres-là et vous l'espérez de manière pérenne. On va en reparler avec vous, Olivier Nasty, mais j'accueille également celui qui préside le GNI Sinorca, le syndicat des hôteliers et des restaurateurs, Didier Chenet. Bonsoir à vous.
Bonsoir Wendy.
Et merci de venir nous éclairer parce que ce que vient de dire Olivier Nasty suppose évidemment une logistique, une inventivité, du personnel, ce que ne peuvent pas s'autoriser toutes les structures. Et je pense aux plus petites, aux plus artisanales. Et c'est bien ce qui vous inquiète, entre autres.
Bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons travaillé sur un protocole sanitaire qui est propre donc aux hôtels, cafés, restaurants. Il est prêt. Oui. Sachant que pour nous, rien ne sera fait sans que nous puissions assurer la sécurité et la santé de nos clients et de nos salariés. C'est extrêmement important. Alors bien entendu, ce sont des mesures qui sont assez contraignantes. Et lorsque vous avez un tout petit restaurant, c'est beaucoup plus compliqué de faire respecter la distanciation sociale et un certain nombre d'autres contraintes. Pour les cuisines, on est assez rassuré parce que nous avons
déjà
des procédures
au top de
HACCP qui déjà bon. Donc ça c'est pas, mais c'est beaucoup plus si vous voulez dans effectivement l'accueil du client, la façon de travailler, de les servir. Ça c'est beaucoup plus compliqué.
Évidemment, est-ce que vous imaginez un retour à la normale, Olivier Nasty, où vous développez justement des alternatives, notamment des camions food truck qui pourraient attendre les clients en bas de leurs entreprises pour une nouvelle forme de restauration, sélecte, mais nouvelle forme.
Vous avez raison, je pense qu'il faut aller, il faut comprendre comment on peut aller au-devant de la clientèle aujourd'hui. Mais est-ce que j'espère un retour à la normale? Oui, je pense que il y a quand même un vrai soutien de la population et je pense que les gens vont refréquenter nos maisons. À nous d'être, comme le disait Didier, à nous d'être très 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 rigoureux sur toutes les normes sanitaires et les distanciations, enfin l'ensemble de ce qu'on peut mettre en œuvre. Mais il est clair que n'ayant pas aujourd'hui une visibilité sur la réouverture, on a du mal à s'organiser, on a évidemment du mal à dire, voilà, ouais, on va faire comme ci ou comme ça. Je peux comprendre, hein, c'est compliqué pour tout le monde, mais le manque de visibilité fait qu'aujourd'hui, je me consacre à cette restauration à domicile et j'attends un petit peu de comprendre ce qu'on va nous imposer par la suite, quoi.
Oui, vous êtes adapté à partir du 20 avril chez vous, dans le Haut-Rhin, Olivier Nasty, et nos auditeurs l'ont peut-être aperçu dans leur propre commune en passant devant les établissements. Didier Chenet, beaucoup à partir de lundi, de ce 11 mai, vont proposer justement de la vente à emporter, des petits plats concoctés donc dans ces restaurants, mais consommés à la maison, mais pour recréer un petit peu le lien, à défaut bien de se sûr faire servir totalement sur place.
Oui. Oui, bien sûr, mais ce que vient de vous dire Olivier, et il vous a dit, j'ai 60 salariés. Vous c'est imaginez énorme, bien ouais, que c'est pas en faisant de la vente à emporter que vous allez assurer l'équilibre financier. Bien donc, sûr. Si vous voulez, la grande difficulté que nous avons, ce sont toutes les négociations que nous menons avec le gouvernement, car de toute façon, rien ne se fera sans qu'il y ait une assistance, des aides financières que nous avons eues au moment de la fermeture et qu'il nous faudra au moment de la réouverture. Nos modèles économiques ne peuvent pas tourner avec un chiffre d'affaires réduit de 50%. C'est impossible. Olivier, qui a un courage formidable et qui veut voir de l'avant, mais 60 salariés, imaginez-vous ce que ça représente comme charge.
Il y a une génération, heureusement, des charges. Vous avez obtenu d'ailleurs les garanties suffisantes financières pour éviter trop de faillites dans ce domaine, Didier Chenet?
Non. Non, malheureusement. Alors, écoutez, d'abord, on a fait un récent sondage chez nous. Vous avez 13% hein, des sondés qui nous ont dit « De toute façon, je ne rouvrirai pas ». Donc, vous voyez, c'est quand même un peu inquiétant. Puis la deuxième des choses, nous avons obtenu pendant la période de fermeture un certain nombre d'aides, mais maintenant, il faut qu'on nous accompagne aussi à la réouverture. Parce qu'encore une fois, je vous le dis, nous ne pourrons pas travailler avec un chiffre d'affaires diminué de moitié et garder des effectifs comme nous les avons. Nous, notre souhait, c'est de reprendre tout le monde. On veut mettre personne au chômage, on veut repartir de l'avant, mais il faut absolument qu'on nous aide. Sinon, eh bien, malheureusement, vous aurez un certain nombre d'entreprises qui iront, comme on dit vulgairement, dans le mur.
Oui, sachant qu'il faudra apprendre à vivre avec le virus, ce que nous disait un professeur en médecine tout à l'heure, Olivier Nasty. Comment vous imaginez, parce que évidemment vous y pensez à chaque seconde, que votre restaurant puisse rouvrir avec ses mesures sanitaires, avec ses serveurs masqués, avec éventuellement ses tables séparées par des plexiglas, avec peut-être des groupes côte à côte et pas face à face? Est-ce que tout cela vous fait cauchemarder la nuit?
Oui, c'est vrai. La réflexion, elle est juste. Il y a 3 semaines, je discutais, enfin, on essayait de comprendre. On pouvait pas imaginer, il y a 3 semaines, mettre un serveur, même dans une grande table étoilée, avec un masque. Ben, j'imagine qu'aujourd'hui, moi, je vois pas le problème. Si on apporte bien les choses et qu'on l'explique, enfin tous les papas, qu'on l'explique, mais en tous les cas qu'on l'amène correctement, je vois pas le souci aujourd'hui. C'est clair que le serveur ne pourra pas s'exprimer correctement, mais il va falloir peut-être le montrer dans un premier temps. S'il faut le faire, on le fera.
Les masques transparents, voilà une nouvelle économie.
Pourquoi pas. En tous les cas, je pense que Didier a raison. Il va y avoir une réouverture. Cette réouverture, on va mettre plusieurs mois, voire une année peut-être plus, à retrouver un équilibre financier dans nos entreprises. Si on n'a pas une aide, c'est clair qu'on part à la casse et il va y avoir beaucoup de petits, de grosses et de moyennes entreprises qui vont y passer. Et puis pas que la restauration, bien sûr.
Alors justement, je voulais parler quelques mots pour terminer de l'hôtellerie, parce que vous les représentez aussi, les hôteliers Didier Chenet, avec la limitation des déplacements à 100 km pour au moins 3 semaines à compter de lundi. Ce n'est pas une bonne nouvelle, évidemment, pour les hôteliers qui n'ont pas beaucoup, pour le coup, de possibilités alternatives. Hein. Ça favorise le commerce ultra local, mais le reste, compliqué.
Voilà, c'est une très mauvaise nouvelle parce que, imaginez, vous venez de le dire, c'est pas avec le touriste local que l'on va remplir nos hôtels. Vous imaginez bien que le littoral attend une clientèle qui est à plus de 100 km. Donc c'est un énorme problème, c'est une énorme inquiétude de la part des hôteliers, qu'ils soient donc encore une fois au littoral ou dans d'autres endroits en France. Cette limitation des 100 km, c'est extrêmement angoissant.
Eh bien, on suivra cela avec vous. Merci Didier Chesnais d'avoir porté cette parole des hôteliers et des restaurateurs pour le syndicat GNI que vous présidez. Et merci Olivier Nasty d'avoir partagé aussi ces initiatives et puis cette réflexion. Vous qui m'avez été chaudement recommandé avec Naïma Bencheman par Pierre Herbulot, que je salue et qui vous connaît aussi, qui a réalisé L'ombre des grands chefs à vos côtés. Merci beaucoup Olivier Nasty et Didier Chesnais.
À très bientôt et au revoir.
À bientôt. Merci et bon courage.
Et on va terminer ce grand journal du soir avec les petites voix d'Europe 1, Wendy.
Dans un instant, Europe 1 Radio Ouverte qui donne également la parole aux enfants. Ne loupez pas ce beau rendez-vous autour de Xavier Yvon.
Le grand journal du soir, la suite est fin sur Europe 1. Avec vous, Wendy Bouchard, il est 19h52.
Et avec Marlène, les petites voix d'Europe 1, on vous propose ce format ouvert aux enfants qui va se poursuivre aussi un petit peu après le déconfinement. Ils réagissent à la crise du coronavirus, au retour à l'école, autour de Xavier Yvon. Très bien entouré encore ce soir, Xavier.
Bonjour les petites voix.
Bonjour.
Alors, dans ce bonjour collectif, on reconnaît les voix de Marius et Violette connectées depuis la région parisienne, celle d'Olivia à Bruxelles, de Sacha à New York et de Rosalie à Berlin. Alors, en France, bah, ça y est, lundi, c'est, on va dire, la libération. On pourra sortir de chez soi comme on veut. Alors, Marius et Violette, ça vous fait quoi? Vous allez faire quoi en premier?
Ici, à Paris, on va en profiter un petit peu, mais en fait, le déconfinement, ça veut pas dire la fin du coronavirus. Il sera toujours là, donc, faudra garder ses distances. Faudra pas faire la bise à tout le monde.
Faut pas non plus sortir beaucoup, parce que ça veut rien dire, la fin du déconfinement. On peut très bien se re-être confiné après.
Ah, mais en fait, le déconfinement, ça vous fait un peu peur?
Oui, c'est vrai, ça me fait un peu peur, parce que je me dis quand même qu'il y a plein de gens qui vont essayer de partir en vacances. On va peut-être se prendre une deuxième vague de l'épidémie. Avec ma maman, hier, on est allé juste au bout de notre rue, parce qu'on habite dans une rue. Il y avait plein de monde. C'était comme si tout le monde était tranquille, c'est la fin, il n'y a plus de coronavirus. Du coup, on se disait, mais c'est quasiment effrayant de voir autant de monde. Et je me demande comment ça va être quand ce sera déconfiné déjà avec le monde qu'il y a dehors.
Moi, à Paris, je pense que les groupes de 10 personnes, ils vont pas vraiment être respectés. Parce que déjà, dans les rues, on voit le relâchement, enfin le déconfinement. C'est un cap à franchir avant de pouvoir revenir à une vie normale.
Moi, à New York, je veux rajouter à ce que Violette et Marius ont dit, parce que en Californie, il y a des gens qui ont fait des sortes de fêtes qui s'appellent Coronavirus Party. Et ils faisaient exprès de se toucher et de pas garder leur distance pour avoir le coronavirus. Ils se sont dit, bah, comme je vais l'avoir, bah, après, je pourrais sortir et faire tout ce que je voudrais parce que je peux pas l'avoir. Mais ils pensent pas aux autres. Et en plus, ça peut être dangereux pour eux d'avoir le coronavirus.
Mais c'est un peu étrange quand même de vouloir avoir le coronavirus pour après ne pas l'avoir. Ça n'a aucun sens, parce que ça se trouve, ils vont se trouver en réanimation et ça se trouve, bah, ils vont pas ressortir.
Moi, à Berlin, il y a aussi les Allemands, ils appellent ça Corona Party. En fait, ils se rassemblent et vraiment, ils se font des hugs et tout ça. Mais on se dit, qu'est-ce que vous faites, les gars? L'autre jour, il y a notre copain qui a dit, ben, en fait, mon voisin, il avait organisé une fête où il y avait, je sais pas, 30 personnes.
J'avais une question, c'était quoi des hugs?
C'est des câlins.
Et des embrassades.
Ok, je suis nulle en anglais, moi.
Alors, il y a aussi le retour à l'école. On en a beaucoup parlé la semaine dernière. Sacha, on sait que toi, c'est pas avant septembre à New York. Olivia, tu n'as toujours pas de date pour ta classe. Et Violette, toi, tu as appris que finalement, c'est pas non plus pour tout de suite.
Moi, en attendant, comme je suis en zone rouge, je pourrais pas reprendre le collège le 18. Il n'y a rien. Nada.
Et Marius, toi, tu pourrais rentrer en CM2 ce lundi, mais tes parents ne veulent pas que tu y retournes.
J'ai appris que pratiquement tous mes copains, ils allaient retourner à l'école. Pratiquement. Je suis un des seuls de mes copains qui va pas à l'école. Du coup, je suis un peu déçue, mais ça va quand même. Et en plus, j'ai vu que le système de notre école, par exemple, si tu respectais pas les gestes barrières, bah, tu pourrais être privé de récré. Tu pourrais avoir des punitions, des devoirs en plus.
Personnellement, à Berlin, moi, je trouve ça assez bête parce que, d'accord, ça sert de leçon aux gens qui vont faire ça, mais désolé, qui va faire ça?
Eh ben donc, il reste toi, Rosalie à Berlin. Tu es la seule de la bande à retourner à l'école ce lundi. Tu nous raconteras la semaine prochaine comment ça s'est passé. Et sinon, maintenant que c'est possible, qui vous avez envie de revoir?
Mes grands-parents, on a vraiment envie de les voir.
Même si je pense pas qu'on pourra y aller, j'avais trop hâte d'aller chez mes grands-parents. On n'est pas sûr encore d'y aller.
Mais moi, à Bruxelles, je pense que dans tous les cas, même si t'avais un moyen de transport, vaut mieux pas aller voir tes grands-parents. Parce que même si le confinement il est terminé, quand même, ça risque d'aller voir les personnes aussi âgées que ça.
Le confinement touche à sa fin et on se souviendra tous longtemps de cette période. La vie a continué, les bébés ont continué à naître pendant le confinement. C'est arrivé par exemple chez Clara, qui habite près de Bordeaux. Elle a eu un petit frère il y a 3 semaines, il s'appelle Georges. Mais une naissance sous confinement, bien sûr, c'est un peu différent. Alors Clara a voulu nous raconter.
C'était le matin, tôt. Nous, on n'était pas encore réveillés et il y a notre voisin qui est venu nous garder parce qu'il n'y avait pas papa ni maman. Même si on n'avait pas trop le droit, il n'y avait aucune autre solution. Du coup, on a fait comme ça.
Mais en gardant nos distances quand même.
Maman, elle est restée 3 jours à l'hôpital et on ne pouvait pas aller à la maternité à cause du coronavirus. Ils ne laissent pas rentrer les visites, voilà. Ça me rendait un peu triste parce que, enfin, c'était un peu long d'attendre parce que on avait trop envie de le voir et on pouvait pas aller à la maternité. On le voyait que par vidéo, par photo, voilà. Et quand il est sorti, on était vraiment très contents. Il est mignon, il dort souvent et il mange. Je pense qu'il a de la chance de se rendre compte de rien. Lui, il s'en fiche un peu d'être confiné ou pas vu que... ça lui change un peu rien. Du coup, je préférerais être un petit bébé qui se rend compte de rien.
Voilà, bienvenue à Georges, une nouvelle toute petite voix dans le monde. Lui, ce sera évidemment le souvenir de confinement de sa famille. Mais vous, ce sera quoi votre souvenir de confinement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est né chez vous ou en vous pendant ce confinement?
Moi, à New York, ce qui est né chez moi, c'est plutôt la photo. Parce que avant, je prenais jamais de photos. Et à chaque fois que mon papa prenait des photos, j'en avais marre. Et en fait, si on n'était pas en confinement, la mère de mon copain n'aurait pas pu faire ce club de photos. Parce qu'elle est photographe. Et on a fait des photos d'ombre, des autoportraits. Et c'est ma nouvelle passion, quoi.
C'est quand j'ai fait un repas pour mes parents, entrée, plat, dessert. Ils ont juste mis les pieds sur la table et je me suis presque occupée de tout, à part pour les cuissons, tout ça. Bon, après, je suis pas sûre quand même de faire cuisiner.
Moi, à Berlin, la meilleure nouvelle que j'ai eue, c'est que je retourne à l'école.
Moi, à Bruxelles, c'était la passion que j'ai découvert. Je savais déjà que j'aimais ça, mais ça m'a permis vraiment de prendre du temps. C'est de faire de la peinture sur tissu, de pouvoir customiser des vêtements.
Moi, ici à Paris, depuis le début du confinement, je fais pousser une graine de pomme. Ça a donné une pousse et ça pousse et ça pousse et encore. Faut que j'arrive à l'entretenir plus de 2 ans, alors même beaucoup plus, je pense, pour qu'il donne des pommes. Alors, c'est pas gagné, hein.
Mais si jamais ça marche, t'auras des pommes...
De confinement.
Eh bien, on espère goûter ces pommes un jour. En attendant, Sacha, on rappelle la consigne qui vaut pour tout le monde, déconfiné comme confiné et pour longtemps encore.
Stay safe and wash your hands.
Prenez soin de vous et lavez-vous les mains. À très vite.
Merci, à très vite. C'est le manuel de Castor Junior, hein, les enfants pendant le confinement. Merci beaucoup, Marlène. Bon, on se retrouve demain.